Voilà, en attendant, je vais présenter déjà le sujet. Alors, oui, une question d'un universel féminin, hein, à propos du Brit. Oui, dans le Brit d'Abraham, on va le voir, on se baladera un peu dans le Roumache. J'ai fait distribuer quelques-uns, et certains textes sont en photocopie. Dans le Brit d'Abraham, on voit que, comme vous savez très bien, qu'Abraham s'appelle, à partir du Brit, Abraham, avec un « he ». On va voir le Rashi, Avamon Goyim, oui, ça désigne de toute évidence un certain universel. Avant, il était Av de Aram, donc Avram, Av Aram, télescopage, oui, Av Aram, et maintenant qu'il fait le Brit, il va devenir Av Amon Goyim. On va le voir dans le texte rapidement. Donc le père d'une multitude de peuples. Bon, ça désigne clairement un universel. Et ce qui marque ce changement, c'est le rajout d'un « he » à son nom. Il s'appelait Avram, il s'appelle maintenant Avraham, oui, avec un « he ». Et on va voir dans les psukim aussi, à la fin de la même paracha, on voit que Sarai également change de nom et s'appelle Sarah, avec un « he », comme on sait. Et il est clair que ce Sarah, ce « he » de la fin, comme dans Rivka ou dans d'autres prénoms, c'est un « he » du féminin. On verra un Kliyakar qui le relève, oui. Mais bon, on pouvait comprendre par soi-même. Voilà, donc, en même temps, dans le même Brit, Abraham récupère un « he » que Sarah également récupère, puisqu'elle s'appelait Sarai et elle s'appelle Sarah, oui. Et c'est clairement, on va le voir dans les Mefarshim, si vous voulez, l'apparition d'une dimension féminine chez Sarah qui avant était verrouillée et elle était stérile. Elle était stérile et il y avait une certaine dimension masculine ou quelque chose qui était fermé chez Sarah. Oui, les Midrashim le disent d'ailleurs de différentes manières. Quelque chose n'était pas ouvert dans le féminin de Sarah. On verra même, il y a un Midrash qui dit que carrément Hachem lui a façonné une matrice, un utérus si vous voulez, qu'elle n'avait pas avant. Bon, tout ça, ce sont des images du Midrash évidemment, mais on saurait être plus clair sur le fait que, lors du Brit d'Abraham, quelque chose de féminin est ouvert chez Sarah et en même temps chez Abraham. Parce que c'est quand même le même « he » et on verra que ça se dit dans le Midrash, oui, c'est le même « he ». Oui, certains disent que le « yud » a été fragmenté en deux. Un « yud », ça fait 10. La lettre « yud » a une valeur numérique de 10 et elle a été coupée en deux « he » qui valent 5 chacun. Un « he » pour Sarah et un « he » pour Abraham. Mais quelque part, c'est le même « he », si vous voulez. Il y a un « he » chez Sarah, un « he » chez Abraham. Et donc, ça se profile comme ça, si vous voulez, un genre d'universel chez Abraham, mais dans les lettres du féminin. Dans le « he », le même « he » qui ouvre Sarah. Oui. Et il y a un parallèle entre l'ouverture du féminin chez Sarah et l'ouverture à l'universel, oui, d'Abraham. Et même chez Sarah, on va dire avant, elle était Sarai, ma princesse, princesse locale, si vous voulez, oui, ou particulière. Avant, elle devient la princesse pour le monde entier. Donc, c'est exactement la même idée que dans Abraham. Alors, on va le voir, j'attends juste un petit peu les photocopies. Rachidi, il ramène un midrash qui est intéressant. Voilà, il arrive, voilà. On va déjà le lire, regardez, c'est dans ce texte-là, la page 226. Oui, ceux qu'on vient de distribuer. Regardez, les versets en haut, le verset 4 d'abord. Ani, iné, berissi, si j'oublie de traduire, vous me coupez. Oui, je traduis, hein, mais parfois, voilà. Ani, iné, berissi, itor, voici mon alliance sera avec toi. Voïsso, le av amon goyim, et tu seras, dès lors, hein, le av amon goyim, le père d'une multitude de peuples. Bon, ça, une multitude de peuples, voilà. Veloi kore od et shimro, donc ça va avec. Ton nom ne sera plus appelé Avram. Veroyo shimro Avraham. Ton nom sera Avraham, avec adjonction du hé, qui, on répète, Av Hamon Goim notatiro, j'ai fait de toi le père d'une multitude de peuples. C'est vrai que l'héritage d'Abraham concerne une grande part du monde, si ce n'est la majorité. Vivre ici au trop après sa suite, hein, je te multiplierai. Me od, menesetirol le goyim, umlochim imroïsou. Bon, sortiront de toi, mais c'est encore un autre aspect de nombreux peuples. Alors, regardez le Rashi. Le Rashi, il est intéressant ici. Ki av amon goyim. Hein, le Rashi, verset he. C'est marqué ki av amon goyim. Bon, je te nomme, tu seras père d'une multitude de peuples. Rachid Hoshon Notarikon, c'est une acrostiche. Avraham, c'est Ahav Hamon Goyim. Il y a le Resh au milieu, il va expliquer. Donc c'est Notarikon Shel Shemo. Oui. Donc Av Ham, si vous voulez, sans le Resh. Av Hamon. Le Resh, oui, chez Aitabo Betrila, et le Resh qui était au début, oui. Shelo Aya Ela Av, le Aram, il était père seulement de Aram. Un chef local, si vous voulez, enfin, voilà. Il était connu seulement à Aram. Donc, il était Av, Ram. Av, Aram. Et le Resh, oui, Shoum Kombo, donc Aram, qui était son lieu. Donc, c'était un chef, si on veut, enfin, local. Oui. Varshav, Av, le Kolaolom. Maintenant, il est un Av, un père, si vous voulez, pour le monde entier. Moi, je dis Amon Goyim, c'est le monde entier. Un universel. Va filou Resh Aitabo Mitrila, et le Resh qui avait au début dans son nom, on aurait peut-être dû l'effacer. On aurait dit Av Ham, Av Hamon. Avant, il était Av Aram, maintenant, il est Av Amon. Mais le Resh, on ne peut pas y toucher. Il dit le Resh Aitabo Mitrila, le Resh qui avait au départ dans son nom, l'Ozazamim Koma, on n'a pas pu l'enlever. Il n'a pas bougé. Il est resté. Donc on a deux choses un peu superposées, Avram et Avham. Av Aram et Av Amon Goyim. Alors il dit pourquoi ? Alors il dit comme ça, et il va falloir traduire ce midrash, chez Av Yud Shel Sarai, donc il envoie là-bas, même le Yud de Sarai, qui s'appelle Sarah, oui. Nitra Ama la Shrina. Bon, c'est un langage midrashique. Le Yud de Sarai, on l'a enlevé, et il s'est plaint devant la Shrina. Après un midrash, il dit, il volait, il demande qui c'est à Kavod, il y a toutes sortes de lachon. Il s'est plaint devant la Shrina. Ad Sheosifa le Yeshua, jusqu'à ce qu'on lui trouve un endroit à ce Yud, oui. On l'a rajouté au nom de Yoshua. Il s'appelait Hoshea bin Nun. Et Moshe l'a appelé Yoshua. Josué, hein. On l'a appelé Yoshua. Oui, c'est, voilà. Yoshua. Chez Neymar, ici de verset, va y Moshe, le Hoshea bin Nun, Yoshua. Là-bas, on dit, Moshe a rajouté ce Yud à Hoshea avant de l'envoyer avec les Meraglim pour renforcer sa personnalité. Donc, je comprends que le Yud, qui est au début du mot, a quelque chose, si vous voulez, de masculin, de fort. Il y a une dimension forte dans le Yud, et on en a besoin. Et donc, le Yud, on ne pouvait pas simplement s'en débarrasser. Il fallait le mettre sur le nom de Yoshua. On entend ?
Oui, c'est ça. Malheureusement.
Ouais. Si on va essayer de faire plus fort.
Merci beaucoup.
Voilà. Voilà. Alors, il dit, pourquoi est-ce que il fallait absolument trouver une place à ce Yud ? Alors, si vous voulez, il y a une notion intéressante ici. C'est que une lettre dans la Torah, c'est une dimension du réel. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, on ne comprend rien à cette histoire-là. Il fallait trouver un endroit pour le Yud. Alors, on l'a réutilisé dans le nom de Yoshua pour le renforcer. Oui, pour le renforcer, pour qu'il arrive à faire face au Meraglim. Hein, comme on voit l'histoire, c'est que Yoshua ne s'est pas laissé entraîner par les autres Meraglim. Oui, et voilà. Donc, ça, c'était le Yud. Mais ce qui est juste intéressant, c'est justement cette histoire des lettres. En passant, voilà. Il y a chaque lettre dans la Torah représente un réel. Il y a un réel. Il y a un réel du masculin. Encore faut-il qu'il soit à sa place. Je comprends que le Yud n'était pas à sa place avant qu'il y ait le bride d'Abraham. Il y avait une dimension de masculin hein, qui verrouillait Sarah. Et il fallait ouvrir cette dimension-là. Il fallait ouvrir le féminin. Alors c'est intéressant, c'est le brite. C'est avec la brite Mila hein, que change et le nom d'Abraham et le nom de Sarah, Sarai, qui devient Sarah. Comme si le brite, justement, hein, ouvrait quelque chose, créait une ouverture pour le féminin. Grâce au brite d'Abraham, le masculin se relie. Au lieu d'être un masculin qui finalement stérilise Sarah, ou l'empêche d'engendrer, d'être féconde, d'avoir des enfants, d'avoir un utérus, pour prendre le langage imagé du Midrash, donc empêche un certain féminin d'advenir, oui. À partir du moment où il y a le brit, oui, le yud n'est pas effacé. On ne peut pas l'effacer, c'est ce que dit le Midrash. Et Rashi le ramène tout de suite. On ne peut pas effacer une dimension du monde. Il y a du masculin. Mais encore faut-il qu'il trouve sa place. Et sa place, c'est au début du nom d'un homme, en l'occurrence, de Yoshua, au début de son nom. Le Midrash dit même plus que Rashi. Il dit avant, tu étais à la fin du nom d'une femme. Maintenant, tu es au début du nom d'un homme. Il s'agissait de retrouver la place du Yud. Le début, le Resh, ça va être comme le Resh d'Abraham. On peut penser que c'est une dimension de roche. Oui. Il faut que Yeshua ait la dimension du masculin. C'est une dimension, mine de rien, de penser les choses. Il fallait que Yeshua puisse avoir un ratson ou une pensée forte pour ne pas se faire avoir par les bruits de fond, si on peut dire, des meraglim, hein, qui ont dit du mal de la terre. Voilà, il fallait renforcer Yeshua. Ça dit quelque chose. Le masculin, quelque part, c'est une dimension de volonté forte. Oui, en roche, en tête. Le hé de Sarah, c'est une dimension, on va dire, matricielle. Hein. On lui fabrique, on va le voir dans les mots, oui, dans le Midrash, un utérus qu'elle n'avait pas avant. Toujours, c'est le langage du Midrash, évidemment. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Je crois qu'on apprend, on dit qu'elle était Akara Enlavlad. Enlavlad, ça veut dire, elle était stérile, et il y a une redondance, elle n'avait pas d'enfant. Ben, si elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. On dit, elle était stérile, elle ne pouvait même pas, il n'y a même pas la possibilité qu'elle ait un enfant. Elle n'a pas la matrice, c'est un langage imagé. Quelque chose du féminin n'était pas ouvert. Comme si c'est le brit qui permettait, dans le couple ici, il y a Abraham et Sarah, dont les deux noms changent, oui, comme si le brit permettait l'apparition d'un féminin. Oui, l'apparition d'un féminin chez Sarah qui va lui permettre d'engendrer, de déployer sa dimension féminine, et aussi l'apparition d'un féminin chez Abraham, au milieu du mot. Pas à la fin du mot, tout le monde peut comprendre. Mais il y a une certaine dimension de féminin qui apparaît aussi chez Abraham. Mais Rachidi, le Resh, on n'a pas pu le blackbouler. Le Resh reste. Juste à côté du Resh, apparaît chez Abraham aussi une certaine dimension du féminin. Oui, une certaine ouverture. Voilà. Une certaine capacité d'ouverture. Oui, et justement, cette ouverture-là le fait s'ouvrir. Oui. Comme Sarah, on va dire, elle s'ouvre, oui. Il y a une certaine ouverture, une certaine fécondité, peut-être pas seulement en termes d'enfantement, évidemment, mais il y a une certaine fécondité, et cette fécondité aussi va déboucher sur un universel chez Abraham. Abraham et Sarah, d'ailleurs, puisqu'elle devient la princesse de tous. Oui. Voilà. Et donc, voyez que le langage parle, mais le Resh d'Abraham, ça ressemble au Roche, hein, le Yud qui est Roche à Teva. Quelque chose, le Roche d'Abraham, il reste, mais il est fécondé. Il y a un Resh, on ne va pas l'enlever, il est très bien à sa place, mais il faut juste ouvrir. Le Hav de Aram doit pouvoir devenir un Vamon Goyim. Il doit pouvoir s'ouvrir. Oui. Et donc, c'est ce que va représenter le Hé. Le Hé, qui est un genre de fécondité, comme c'est dit d'ailleurs après, Veifressi Otra, même Abraham lui-même aura une fécondité. Lui aussi était Akar, lui aussi récupère une fécondité qui est dite par le hé. Ah. Mais quand même, on comprend que le hé, dans Sarah, oui, indique très fortement, hein, oui, une dimension du féminin. Oui. Voilà, donc c'est intéressant. Le Brit fait récupérer, si on peut dire, à Abraham, et encore plus vitalement à Sarah, un féminin. De manière essentielle pour Sarah, comme si le féminin était verrouillé, si on peut dire, par le masculin. Il y avait un yud à la place du V. Hein, on pourrait dire que on s'y prend. On voudrait dire que le masculin obture, oui, le féminin, qu'on s'y prendrait pas autrement. Et le Brit ouvre ça. Le Brit donne une possibilité d'expression au féminin. Vous pouvez voir les enjeux par rapport à tous les problèmes modernes de féministes et tout ça. Voilà. Il s'agit quelque part de remettre effectivement le masculin à sa place, mais pas au sens figuré, de le remettre réellement à sa bonne place pour ouvrir le champ d'un féminin, mais on ne peut pas non plus effacer le masculin. Le masculin a une certaine place qu'il faut trouver. Donc, au début du mot, Beroche, oui, Beroche à Teva, au début du mot, oui, à la tête. Oui. Je me rappelle que Benny Lévy, une fois, il avait été interrogé par Ardisson en 2000, je ne sais pas quoi, oui, pas de, tout début, et il parlait de Lévinas, et il disait que Lévinas avait pris son temps pour déchiffrer des vieux textes, oui, et c'était ça sa virilité. Il avait employé ce mot-là un peu surprenant. Sa virilité, si vous voulez, à Lévinas, c'était justement la tête, d'avoir mis sa tête dans des vieux textes qu'il avait réussi à ouvrir. Ouais. Donc il faut mettre le Zahar à sa place, oui, et en même temps ouvrir un champ du féminin. Oui. Donc ça ouvre quelque chose chez Sarah, on va voir les différents midrashim. Et surtout, ce même « hé » se retrouve, et c'est même dit en premier, hein, puisqu'on parle de Sarah après, ici on est verset 5, on trouve donc ce « hé » dans le nom d'Abraham. Oui. Et donc, je comprends qu'il y a ici, à travers le Brit, constitution de ce que j'appellerais un universel au féminin. Une certaine dimension de féminin, il y a le « resh » pas loin, ou le « yud », mais il y a un « hé ». Oui. Ça change, oui, des universaux, oui, ce qu'on appelle les malruyotes, vous savez, les empires, oui, qui sont des universaux, il me semble, oui, au masculin, conquérant. Oui. Il y a un certain universel qui se déploie dans la pensée, mais en fait, c'est surtout une machine à conquérir, oui, et à assimiler, à dominer. Voilà. On essaiera de voir un ou l'autre exemple, oui. Mais il faut d'abord faire un détour par la notion de la Shana Kodesh, la langue sainte. Voilà. Oui ?
Yeshua, il est où avant ? Parce qu'il lui a rajouté un yod.
Avant, il s'appelait Oshéa.
Mais il apparaît avant ce passage-là, il apparaît...
Non, c'est une manière de parler. De toute façon, c'est atemporel, oui. C'est-à-dire que ce qui... On a remis dans l'horizon du Brit, oui, on a remis le yod de Sarai sur la tête, à la tête d'Oshéa. C'est anachronique, c'est atemporel. Hein. Il apparaît bien plus tard, plusieurs siècles après, à l'entrée en Eretz Israël. Voilà. Mais c'est de dire, voilà, ce Yud, il n'a pas pu disparaître. On doit le retrouver quelque part. On le retrouve sous la forme du Yud ajouté, oui, à Oshéa, qui s'appelle Yoshua. Voilà, c'est une manière pour le Midrash aussi de donner à comprendre que le Yud n'est jamais perdu. Oui, il y a un réel, et ce réel, il faut lui trouver sa place. Sa place, c'était de permettre à Yoshua de faire rentrer le peuple juif en Eretz Israël. Parce que c'est quand même bon, lui qui le fait rentrer, et parce qu'il a su ne pas se perdre, oui, dans les élucubrations, oui, qu'il y avait autour de lui. Il a réussi à rester fort dans sa tête. Hein. Voilà, donc, bon, ça n'est pas chronologique du tout, ce genre de propos. C'est une manière de... C'est le Midrash lui-même le dit, on le verra. Hein. Voilà.
Oui. Il me semble que, justement, on retrouve ici la dimension conquérante,
ouais,
puisque Yoshua est justement celui qui fait la conquête de la terre.
Oui. Alors, le problème, c'est qu'il fallait une certaine... Il faut une certaine dimension de Zahar, voilà. Mais pour faire apparaître quoi ? Alors, c'est vrai, il va conquérir une terre, mais porteur de quoi ? Porteur de quel message? C'est ça l'enjeu. Il vient quand même à la suite d'Abraham, mais il faut effectivement, bon, il y a la place pour un certain Yud, mais encore une fois, le Yud de Joshua, c'est principalement celui qui ne se laisse pas avaler par le discours des Meraglim, qui ont quand même fait échouer la première tentative, enfin le premier d'or, voilà, qui n'est pas rentré dans la terre. Donc le Yud peut permettre, oui, d'arriver à ses fins. La conquête, ensuite, il faut bien ajouter que c'est un tzivoui d'Hachem. Il faut comprendre quel est ce tzivoui. Alors, regardez, ça c'était ce.
Oui.
Oui, allez-y. À suivre
la migration des lettres, telle que vous l'indiquez.
Oui.
J'avais jusqu'à présent entendu le commentaire que le fameux Yud de Sarah, de se partager en deux.
Oui, il y a une opinion.
C'était traditionnel.
Oui.
Alors là, vous introduisez une migration de moins
deux
lettres, c'est-à-dire la migration de Brèche.
Ouais. Qui n'a pas bougé, lui, qui est resté.
D'autre part, comment ça se fait qu'au lieu d'être partagé en deux, ça migre vers Yoshua, ça rejoint une bonne question, on ne comprend pas cette migration des lettres.
Voilà. Alors, effectivement, il faut comprendre comme ça. Ça veut dire que c'est un langage dans le Midrash pour expliquer. D'abord, il faut interroger, c'est quoi ce truc des lettres? Et alors, s'il n'y a plus un Yud, il n'y a plus un Yud. On a écrit le nom de Sarah autrement. Voilà que le Midrash dit, non, le Yud n'est pas content, il se plaint devant le Kissak Avon, le trône de gloire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je comprends, et Rachid ramène ici, il aurait pu ne pas en parler. Oui. Rachid veut dire, toutes ces notions, ces changements de nom signifient quelque chose. Et en l'occurrence, ils signifient quelque chose en termes de masculin et féminin. Ça n'est pas par hasard que le Yud, qui a disparu du nom Sarai, se retrouve à la tête du nom Yoshua. Ça va permettre de comprendre ce qui s'est passé. C'est un langage, oui, qui permet de comprendre que Sarah a récupéré un hé. Tout le monde sait que le hé, Rivka, Deborah et tout ça, le hé, en général, c'est une indication, pas toujours, bien sûr, mais une indication du féminin, oui. Et donc, on voit bien qu'il y a un féminin qui apparaît. Alors, on dit, bon, ben voilà, on aurait pu se contenter de dire, voilà, elle devient féconde, avant elle était stérile. Il dit, oui, mais le Yud, oui, il faut qu'il retrouve sa place. C'est une manière de dire que le Brit remet les choses à leur place. Le Brit déchire quelque chose dans le masculin, oui, le remet à sa place, en l'occurrence, mais c'est un exemple, oui, à la tête du nom de Yoshua. On peut faire remarquer que le fils d'Abraham s'appelle Yitzhak, celui qui hérite, son fils s'appelle Yaakov, et le premier fils, si on peut dire, de Yaakov, c'est Yosef. Oui. Donc les descendants d'Abraham ont eux aussi un Yud, mais bon, ils l'avaient à la naissance, alors ça n'illustrerait pas. Alors on trouvait Hoshéa, oui. Hoshéa qui est en charge de rentrer en Israël, a le Yud qui était chez Sarah. C'est un langage simplement pour dire que ce Yud était un masculin qui verrouillait Sarah. Et le Brit va faire exploser ses verrous et remettre le masculin à sa place, qui est le Roche, exactement comme le Resh d'Abraham qui ne bouge pas parce qu'il indique une dimension de roche. Mais c'est pas par hasard que le Yud va de roche à Tevot et que la lettre qui ne bouge pas, c'est le Resh. C'est une autre manière de dire la même chose, comme ça je le comprends. Oui, il y a une manière de... Il y a une pensée des choses forte, oui, il y a besoin de ça, et en même temps, besoin d'une capacité de vertu. Oui, c'est juste une manière d'illustrer que le Yud est un masculin. On l'a trouvé à la tête de celui qui a fait rentrer le peuple en Eretz Israël, oui, donc à la tête, comme Yoshua qui était à la tête. On peut aussi dire, oui, voilà, que le Yud, puisqu'on parle du Brit, le Brit déchire quelque part dans le Zahar et produit deux hé. Mais c'est aussi, oui, c'est pas juste arithmétique, oui, c'est une manière de dire, voilà, la déchirure dans le Brit permet une ouverture, et une double ouverture, une ouverture du féminin, Sarah qui a des enfants, et même une ouverture d'Abraham, qui lui aussi était stérile, mais pas seulement, oui, qui a aussi une ouverture, je comprends, au niveau de son Resh, oui, puisqu'il va devenir Avamon Goyim. Il y a deux propos. Il devient père pour multitude de peuples, c'est un père spirituel, si vous voulez, c'est la tête, et en même temps, lui-même engendrera. Hein, comme dit Rashi, Yitzhak, oui, et ensuite, Yaakov et Esav, quoi. Enfin, voilà. Donc, il va enfanter des peuples, hein, Yaakov et Esav, oui. Mais il devient aussi un genre de Ave, de père spirituel. Il y a deux propos. Voilà. Donc le Resh, la dimension du masculin, va être fécondée, ouverte par le Brit, et il y a une ouverture. Le « et », c'est une ouverture. Vous voyez, c'est juste un langage pour dire ça. Donc il y a une migration des lettres, c'est une manière de dire qu'il y a une migration du masculin, oui, une migration du masculin qui n'est plus verrouillée à la fin du nom de Sarah, oui, et qui retrouve sa place, libérant du coup Sarah, libérant du coup le féminin. Un vrai enjeu de sociétal, entre guillemets, oui, voilà. Et donc, voilà, c'est intéressant comme problématique, oui. Donc, il y a ce côté-là sociétal, et puis, il y a aussi ce côté-là au niveau des empires, c'est un petit peu vers ça que je vais le tirer, oui. Voilà, un universel, oui, laissant ouvert par le féminin. Il reste le Resh, il reste le Yud, il reste la pensée des choses, mais il faut l'ouverture. Et l'ouverture se dit au féminin. Un peu, peut-être, vous savez, comme dans les Arbabanim, celui qui ne sait pas poser de questions, on dit « at petarlo » au féminin, d'après cette lecture. Oui. Toi, au féminin, tu lui ouvres, « petarlo ». Oui. C'est le féminin qui ouvre, on pourrait dire un peu comme ça. Oui. Voilà. Donc il y a un féminin, le Brit ouvre Abraham, ouvre le masculin, le déchire, oui, si on veut, il y a les deux langages de Midrash, le déchire, oui, fait apparaître deux ouvertures, d'abord le féminin de Sarah, qui est majeur, oui, et un certain féminin dans Abraham, oui, dans le nom, oui, pas à la fin du nom, hein, encore une fois, voilà, mais un certain féminin à côté du Resh qui permet une certaine ouverture. Alors, on va essayer de formuler un peu plus sur cette ouverture. Oui. Donc, la migration des lettres veut juste dire qu'il y a une transformation dans le réel, une migration, entre guillemets, dans le réel, une transformation du masculin qui migre, ouais, d'un masculin pesant, verrouillant, ouais, obturant, vers un masculin ouvert, ouais, et qui est à sa place, à la tête des choses. Mais je reprends un Resh, ouais, le Resh de Yoshua, que Moshe lui a donné pour l'armée, ouais, contre les Béraglim, pour armer sa tête, ouais, ou sa capacité de parole. Alors regardez, ça c'était ce texte, voilà. Alors regardez, on va voir le second texte qui a été distribué aussi. C'est la page 388, ouais. L'autre texte.
Non, ouais. Je ne sais pas ce qui a été distribué.
C'est le chapitre. Alors ceux qui auraient un roumash, c'est toujours le même chapitre. C'est Yud Zayin et le verset Tet Vav.
Le verset Tet Vav. Celui-là comme autre texte.
Pardon ?
Je ne sais pas si celui-là.
C'est à moi de distribuer, je l'ai moi. Voilà, faites-le passer. Il n'y en a pas forcément un par personne, il y en a un pour deux, mais il y a les Roumashim qui peuvent compléter. Ceux qui veulent se servir de leur Roumash, c'est chapitre dans Bereshit. C'est chapitre Yudzaïn, le verset Tet Vav. Chapitre 17, verset 15. C'est le changement du nom de Sarah. Juste, il y a un Kli Yakar que j'ai photocopie avec en dessous. Un pour deux peut-être, mais avec les Roumashim, on devrait y arriver. Hein. Oui, allez-y.
Est-ce que le nom de Sarai était... vous dites que le Yud était verrouillant.
Oui, verrouillant. Oui, était serré.
Mais
oui.
Le Yud, ce n'est pas une indication du féminin dans certains...
Alors ici, bonjour, ici ça apparaît clairement comme une indication du masculin, voire le Kliyakar. Ici le Yud. Hein. Alors on va voir, en tout cas ici il se lit comme ça, peut-être les choses sont souples, mais ici il se lit au masculin. Alors regardez, si vous avez le texte, sinon... Vous avez le Chumash lui-même, c'est le chapitre Yud-Zayin, verset Tet-Vav, Tet-Vav et Tet-Zayin. Alors regardez, donc ça suit, hein, vous voyez qu'on était au verset 5 et 6, on est versets 15 et 16, c'est la fin de la même paracha, du Brit, hein, le Brit d'Abraham. Vayomer Elokim el Abraham, Sarai Ishtecha, lo tikre, tikro, pardon, et Shema. Sarai, ça s'adresse à Abraham. Tu n'appelleras plus son nom Sarai, ma princesse, qui Sarah Shema. Son nom, c'est Sarah. Rachidino Tikret Shema Sarai, Demashma Sarai Li, oui, c'est mon, ma princesse, Velo l'Acherim, et pas pour, pour les autres, qui Sarah Shema, Chiti Sarah Alkol. Donc la même idée que Av Amon Goyim, Alkol, oui. Elle est une princesse, oui, un peu comme dire, alors c'est une autre fonction que Av, mais il y a quelque chose qui rejaillit Alkol sur le monde entier. Alors, pour ceux qui ont la photocopie, oui, il y a en dessous le Kli Yakar. Je vais le lire, le traduire. Hein. L'Otikra Shemo Sarai. Le fichier Kol Yud Tohar le Zahar. Voilà. Le fichier Kol Yud Tohar le Zahar. Est-ce qu'il m'en reste un? Non, voilà. Le Kli Yakar, il est là, mais ça a été tout petit. Hein. L'Otikra Shemo Sarai. Voilà, vous pouvez le lire ici. Hein. Il dit le fiche kol yud tohar le zahar, c'est un attribut du masculin. Ou matsinu la chanze be zahar, on trouve ce terme-là, même sarai, chez Neymar, be sarai be isahar. C'est dans Shoftim, dans la Shira de Dvora, c'est marqué là-bas, bon, il y a pas tout qui veut dire les princes de Isahar. Il fallait mettre Vesoré, oui, Sar, même au mot singulier à la limite. Vesar, Vesachar, le prince comme générique. Mais c'est marqué Vesorai, Vesachar, le prince, oui. Mais c'est écrit Sarai avec un Yud, oui, comme le nom de Sarai, oui. Il y a un Yud là-bas. Et lui, il comprend Sarai, c'est. Ça, parce que c'est pas. Grammaticalement, on n'a pas besoin de l'écrire comme ça. Donc il comprend qu'on a rajouté ce Yud là-bas, oui, pour insister sur les princes, oui, la dimension de force. C'est les princes, au masculin là-bas, de Issachar. Bon, il trouve un lachon comme ça, c'est vrai que c'est marqué Sorai, exactement comme le nom de Sarai. Mais Issachar, et ça veut dire les princes, le prince, comme terme générique. Le Fishata Kara Kizrahi, lui dit comme ça, le Kliakar, elle était stérile, comme un homme qui n'engendre pas dans son ventre, oui, le Yoldim, qui n'enfante pas lui-même, dans ce sens-là, évidemment. Varshav nitana he bimam kom yud. Maintenant, il a un he à la place du yud, qui colle he tohar la nekeva. Le he renvoie à la féminité, si vous voulez, le horot, oui, chez meata, tiye nekeva. Bon, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Sarah devenait une nekeva. Récupérer une féminité. Comme dit un midrash qu'on verra si on a le temps, Hachem lui a façonné un utérus, une métrone, une matrice. Oui. Bon, c'est le langage du midrash. Oui. Ça veut dire que avant, il manquait quelque chose dans le féminin de Sarah. Alors, évidemment, tout ça, c'est un langage du midrash. Dans le texte, on t'a pas écrit ça. Dans le texte, on ne te dit pas qu'elle n'est pas de matrice et tout ça. On te dit qu'elle était stérile, point barre. Voilà, ça arrive, ça n'y signifie pas grand-chose, oui. Mais là, le texte, le Midrash, je veux dire, non, mais il y a un vrai enjeu. Le changement du nom veut dire que quelque chose ici, dans la Brit Mila, se conquiert sur le féminin. Dans le féminin, si vous voulez. Et donc, on va dire, voilà, avant, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de Vlad, elle n'avait pas de matrice. Voilà, la matrice, c'est quand même une dimension, oui, du féminin. Oui, ça fait suffisamment couler d'encre, oui, actuellement, oui. Dans les langages extérieurs, voilà. Et donc, il dit, donc, Tienekeva Yoledet, qui enfante, qui est équipée, si je peux dire, pour enfanter. C'est une dimension forte. Oui. Kedesh, Eloye, le Yud, Tarumat, et pour que le Yud n'ait pas à se plaindre, hein, ce que cite Rashi, Lomar, Shene, Karbina, Torah, qu'on l'avait jeté de la Torah, oui. Chatsimispara, oui, Alken, oui, parce que, bon, on peut dire comme ça, on a récupéré chez Abraham, on a récupéré que la moitié du nombre. On a 5 au lieu de 10. Alken siv he l'Abraham. C'est une des deux lectures, n'est-ce pas? Une autre lecture, c'est qu'on a répondu au Yud en le mettant chez Yoshua. On a ajouté un he l'Abraham, le Hachlito alkol amon goyim, et ça lui a donné une ouverture sur toutes les nations. Ça a ouvert chez lui une dimension universelle. Le hé qui ouvre chez Sarah une fécondité, disons, brute, si je peux dire, au premier degré, et une féminité, parce que, bon, c'est un ensemble, évidemment. Donc, une féminité. C'est même He, Shavram, évidemment, il ne se dit pas de la même manière, oui, mais il se dit en termes d'ouverture vers les nations. Val He, Hamisha Roche et Varim, oui, aussi, bon, c'est un autre aspect. Il a pu avoir un contrôle, le Brit lui a donné un contrôle de ses yeux, voilà, en fait, de sa sexualité. C'est un autre aspect. Uldat Chochmé à Kabbalah, Yeshbe'e Kouach Aulada. Et d'après les Chachamim de la Kabbalah, ouais, il y a dans le He une allusion, une puissance d'engendrement, une fécondité, au sens large, on va dire. Chez Sarah, chez Abraham. Comme au Shneimar, alors c'est intéressant, souvent comme ça, on trouve des notions, c'est marqué un peu plus loin, dans l'histoire de Yosef, juste que je repère ma référence, chapitre 47, je vous le trouve rapidement, je vous le cite. Dans Yosef, quand Yosef est devenu maître de l'Égypte, oui, à un moment, il dit aux Égyptiens de prendre les graines qu'il a mis de côté, le grain, et de se nourrir ou de le semer. Alors c'est marqué là-bas, Vayomer hein, Yosef et la âme. Yosef a dit, alors c'est chapitre 47 dans Bereshit, verset 23. Oui, c'est le peuple égyptien qui a faim est venu chez Yosef, et Yosef dit, voilà. Il a dit au peuple, Hey, hen konisietrem ayom, ven admal le paro. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai acquis, oui, ven admatrem et votre terre pour Pharaon. Il a fait de toute l'Égypte des serviteurs de Pharaon. Et maintenant, et en échange, il les paye en disant, Hey lachem zera. Hey lachem. Hey lichi. Hey lachem. Voici pour vous du zera, la semence. Uzratem et adama, et vous pourrez semer la terre. Ensemencer, oui, et manger. Voilà. Alors c'est juste une façon He lachem zera, comme si on décontextualise complètement, c'est totalement décontextualisé. He, comme la lettre He, si vous voulez, He, le He, lachem, pour vous, est fécond. Mm-hmm. Voilà, mais c'est totalement décontextualisé. Hein. Le pshat, la littéralité, mm-hmm. c'est dit voici, hey, ouais, hey, l'ichi, en araméen, voici pour vous, oui, du grain. Voilà. Mais, bon, la lecture, si vous voulez, en remesse peut-être, c'est que le « he » la « chemzera », le « he » est un signifiant, ouais, de fécondité, de semence. « He » la « chemzera », le « he » pour vous, c'est une fécondité. Oui.
Pour vous, là...
Pardon ?
Je peux poser une question ?
Oui, oui.
Le « la « chem » Du coup, c'est tout le monde, puisque là, il s'adresse aux Égyptiens.
Oui,
il s'adresse
aux Égyptiens, c'est-à-dire pour tout le monde, oui, pour tous. Oui, le « hé » est-tu, le « hé » est pour vous, pour tous, oui, un « zera ». Le « hé » est un signifiant de « zera », de fécondité. Voilà ce qu'il dit. Bon, il ramène ce genre de source, le « kliyakar ». « Komo sheomar, atachatu kemonochi » Là, je n'ai pas trop vu le « hé » peut-être. Bon, quand Yaakov... s'adresse à Rachel qui n'a pas eu d'enfant, il dit est-ce que je suis à la place d'Hachem, je vois pas, je suis allé un peu vite, il y a aussi une allusion apparemment au Hé, et aussi Zéoutam Lishnehin Shel Bil'a, bon, Bil'a a deux Hé, ça renvoie aussi à une certaine fécondité, bon, Alken Nitnukan Shneahin, et donc il revient à son sujet, c'est pour ça qu'ici il y a deux Hé, les Hé d'une fécondité, la fécondité au premier degré si vous voulez, et pas seulement de Sarah, et une fécondité au second degré, si vous voulez, chez Abraham, oui, qui acquiert une ouverture à tous. Achat l'Avram, achat le Sarah, donc un hé pour Abraham, un pour Sarah, oui, venil kocho hé min Sarah l'Avram. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris un hé de Sarah vers Abraham. Et là-bas, le Midrash dit, quelque part, l'ouverture d'Abraham, elle se fait par le mérite de Sarah. Donc, il y a tout un aller-retour. D'un côté, Abraham fait le brit, ce qui déchire quelque part le masculin, ou en tout cas, le repositionne. Le repositionne, oui. Et en même temps, en ouvrant la dimension de Sarah, cette dimension de Sarah va rejaillir sur lui. Comme si c'était de chez Sarah que venait le hé d'Abraham. Oui, on peut le dire comme ça. Oui. Donc, on a coupé en deux le yud de Sarah, il y a eu un hé chez Sarah, oui, et en même temps, il y a eu un hé venu de chez Sarah si déjà on prend cette langue, venue du nom de Sarah vers Abraham. Comme si on voulait dire que c'est par le féminin, on aurait... C'est ça qu'on veut dire. On s'exprime très clairement, le Midrash. Parce que pourquoi il rentre dans des considérations comme ça, bon, etc. Il dit, mais on veut dire quelque chose. C'est bien de l'ouverture de Sarah que procède l'ouverture d'Abraham. Il s'agit bien d'un féminin. Il n'y a pas un « hé » pour le féminin et un autre truc venu d'ailleurs, une soucoupe volante, venir. Non, non, ça vient de chez Sarah. Une fois qu'on a brisé le « yud », vous voyez, il y a un langage très précis. Et donc, « venil kechohé min Sarah le Abraham », le « hé », 5, la moitié du « yud » a été pris de chez Sarah, vers Abraham, le Midrash est encore plus explicite, en disant que c'est par le mérite de Sarah qu'Abraham a son ouverture. Une fois qu'il a fait les brites, qu'il laisse apparaître la dimension de Sarah. Vous voyez, il y a un genre d'aller-retour. Oui. Le Roch et Bisrouch et Sarah, oui, il le dit en toutes lettres, Garam Lahem le Tuldazou. C'est le mérite de Sarah qui a engendré, qui a permis d'avoir cette descendance, oui, mais je comprends aussi l'ouverture d'Abraham. Que Moshe Omar Veiboné Gamon Chimimina, bon, le fameux Srout de Sarah qui lui a permis d'avoir un enfant, qui rejaillit sur Abraham. Bisrout, Chernisatarata, le Beta, etc. Imken, Srouta, Shel Sarah, Garam, Gam, le Abraham, Shelui. C'est le mérite de Sarah, la dimension de Sarah, si vous voulez, Srout, la dimension de Sarah, qui permet qu'Abraham aussi engendre et soit Amon Goïm, parce que c'est comme ça le propos principal. Voilà. Après, bon, il continue, mais je ne vais pas m'étendre trop. Vous pouvez lire la fin du Kliyakar. Il y a encore un autre aspect du propos. Voilà. Voilà. Donc, juste pour ouvrir, oui, pour donner cette ouverture, ça veut dire que la brite d'Israël, oui, travaille, oui, c'est formulé très clairement dans le changement de nom d'Abraham et de Sarah, oui, fait apparaître une dimension d'ouverture vers les nations. Qu'Abraham peut s'adresser à toutes les nations, mais grâce au féminin de Sarah, oui, que le Brit a permis d'ouvrir. Comme si sans le Brit, le masculin obture, oui, étouffe le féminin, l'empêche d'apparaître. Oui, et d'un autre côté, il n'est pas question, c'est ça le petit jeu de la migration des lettres, il n'est pas question non plus juste de se débarrasser du masculin. Il est là pour quelque chose, mais effectivement, ouais, il y a un problème. Ouais, quelle est sa place? Où se dit-il? Oui. Moyennant quoi, on débouche sur ce que j'appelle donc un universel au féminin. Donc ça, c'était un premier aspect des choses. Si vous avez des questions, posez-les. Oui.
Pourquoi c'était une nécessité qu'il y ait une ouverture à l'universel?
Oui, alors peut-être il y a une nécessité qu'à travers Abraham, plus tard à travers le peuple juif, oui, la parole d'Hachem puisse être entendue, oui, par toutes les nations. Visiblement, il y a un projet d'Hachem en direction des nations, sinon effectivement, on ne sait pas pourquoi ce brit débouche sur le fait qu'Abraham est appelé Av Amon Goyim. Donc c'est un des projets, il y a un projet d'Hachem, si on veut, qui s'exprime déjà avec Abraham, de s'adresser à tous, pas forcément de la même manière et à la même vitesse, hein, bon, c'est une Torah, il y a les Bnei Noirs, etc., mais visiblement, il y a une parole qui doit pouvoir concerner les nations.
Oui. Est-ce que nous, on est dépositaire de cette parole?
Alors, dépositaire, ça veut dire on en est responsable, on va dire. Oui. On va dire on est responsable. Oui, il y a une responsabilité des descendants d'Abraham, c'est ça le brit, en fait. C'est ça le brit, c'est qu'on a cette responsabilité de donner une ouverture vers les nations, oui, qui doivent aussi faire leur propre chemin. C'est un autre problème, oui. Mais il y a visiblement une parole ici qui peut être entendue des nations et qui se dit sur un mode nouveau. Le brit ouvre un mode nouveau. Oui. On va voir que ça va mettre un peu de temps, oui, comme on s'en est aperçu, avant que les fameuses malchouyotes, les fameux empires, oui, n'aient une oreille, oui, pour cette parole-là. Mais on en est quelque part, il y a une certaine responsabilité dans ce sens-là. Comment s'exprime cette responsabilité? C'est encore une autre paire de manches, mais il y a une certaine responsabilité. Oui. Mais déjà, oui, une responsabilité est aussi de comprendre ces notions, de comprendre ce qu'on attend de nous. Oui. On n'est pas là pour avoir un langage, effectivement, ou un universel sur le mode des Grecs ou des Romains. Donc, il faut déjà comprendre. Évidemment, le reste, c'est longue histoire, mais disons, voilà, il y a déjà une ouverture ici.
Une remarque.
Oui.
C'est-à-dire que le féminin n'existe quelque part que s'il est partagé. Il ne pourrait pas... moi, c'est comme ça que je comprends toute cette analyse, c'est que il faut que Sarah partage un élément, donne un élément de sa féminité à Abraham pour que, effectivement, elle puisse avoir une matrice, être féconde. Autrement dit, elle n'aurait pas pu se comporter comme une Amazone.
Oui, ça se fait à deux. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est le couple. Ouais. C'est le couple qui est visé. Il faut aussi qu'Abraham fasse la circoncision, coupe un peu dans le youd. Du coup, quelque chose peut s'ouvrir chez Sarah, dont profitera, qui rejaillira sur Abraham. Quoi. Il y a un genre d'aller-retour.
Ça se fait à
deux. Oui, ça se fait à deux. Alors, le comment à deux, il y a toutes sortes de pas de danse, mais c'est à deux. Oui, voilà. Ouais, non, c'est compliqué, mais ça se fait à deux d'une certaine manière.
Une question sur les deux « et » qui sortent du youd.
Oui.
Ils sont forcément différents. Si on fait référence au test avec un petit par un you,
oui.
Il y a you qui est marqué,
oui.
Il y a deux et. Donc, est-ce que ces deux et qui sont de coloration différente?
Oui, on peut dire qu'il y a deux des différentes colorations. Ça veut dire qu'on peut. Dans le tétragramme, c'est encore notre paire de manches, mais le hé d'Abraham et le hé de Sarah indiquent un féminin. Mais là, le hé est à une certaine place, à côté du rech, oui. Et là, le hé est à une autre place. Oui. Donc, ce sont des féminins, mais il ne faut pas, évidemment, confondre. Oui. Donc, ce sont tous les deux indiquent un féminin, mais suivant l'endroit où ils s'expriment, oui, ce sont deux choses différentes. Oui, oui.
Est-ce que du coup, il y a quelque chose qui se réfère donc, dans les générations successives, puisqu'il y a Rivka stérile et Rachel aussi stérile, et d'autres pas de danse qui s'écrit successivement?
Oui, alors après, effectivement, il y a chaque fois des. Voilà, mais on a l'impression qu'avec le Brit, on a fait sauter le youd. Après, il faut encore. Il y a d'autres boulons à serrer, on va dire comme ça. C'est une histoire complexe. Il y a l'histoire de Israël, de Rivka, il y a l'histoire de Jacob. Mais disons, le Brit est acquis. Le Brit est acquis. Après, il y a le problème d'Essav, oui. C'est beaucoup parce qu'Essav fait défection qu'il y a tout ce problème-là de Lavan, de Rachel, de Léa, qui toutes les deux arrivent chez Jacob. Il y a des déséquilibres, oui, de toutes sortes. On va rester sur ce problème-là. Hein. Donc, le Brit, oui, le Brit qui est une véritable ouverture, qui ouvre au féminin. Alors, c'est intéressant aussi, c'est encore un autre univers, tout un cours, mais comme ça, je vois la chose, c'est que l'ouverture au féminin et l'ouverture avec Hachem, en direction d'Hachem, parce que le bride, c'est ça aussi. Il s'agit d'enlever la orla, oui, la chose qui masque le lien de l'être humain avec Hachem, qui puisse ouvrir un lien avec Hachem. L'ouverture au féminin et l'ouverture à Hachem sont étonnamment parallèles. Mais bon, c'est encore tout un cours en soi. Voilà. Mais effectivement, il y a un parallèle, puisque c'est ça aussi. C'est que le Brit va faire apparaître le féminin, va permettre une fécondité du couple entre Abraham et Sarah, oui, va permettre une ouverture de ce couple-là, disons, illustré par l'enfance. Et on ne peut pas dire que ça ne se dit que comme ça, mais c'est une manière pour le texte ici de le signifier. Il y a une ouverture. Et en même temps, le Brit, c'est évidemment une vertu vers Hachem. Donc c'est intéressant. Il y a ce troisième plan. Oui, il y a l'ouverture vers Hachem qui est clairement ce que le Brit ouvre, l'ouverture vers le féminin et tout d'un coup l'ouverture vers un universel qui ne soit pas un universel de domination. Oui, ah oui, allez-y. Oui.
Et en fait, tout au long de Bereshit, c'est Isha, c'est Aleph, Shin et He. Oui. Et curieusement, quand Chava, qui n'est pas d'ailleurs encore nommée jusqu'à après la faute, oui, elle donne le fruit à Adam. On ne dit pas elle donne à Adam, on dit Vatiten, Gab et Isha. avec lui, enfin Aïcha avec le Micho, avec le Aleph, Yud, Shiné. Donc on a dans le même mot le Yud et le He. Au moment où elle donne le fruit à Adam et au moment où tout ce cataclysme en fait de l'humanité avec la consommation du fruit et tout ce qui va suivre derrière. Donc est-ce qu'il y a un lien à faire avec ce que vous dites dans ces histoires de lettres qui se...
Ish, au là-bas, ça veut dire son mari, c'est possessif.
Oui.
Donc, il y a un ré, c'est Ish, avec un Yud. Oui. Et un ré, par contre, effectivement, Ish a un Yud
que Isha n'a pas. C'est le fameux Lachon, d'Ophel à Lachon, comme si ce n'est pas le même mot. Isha, ce n'est pas Ish, avec le Yud au féminin. C'est un autre mot. Mais bon, là, c'est un boulot en soi. Voilà. Mais le Isho, le possessif, non. Le possessif, non. C'est son mari. Oui. Donc, a priori, voilà, c'est pas un nom, c'est un possessif, oui. C'est pas la racine. Voilà. Par contre, dans la racine, effectivement, il y a une racine avec un yud et une racine avec un ré. Voilà, et ish, ça se dit toujours en masculin. À chaque fois que c'est marqué ish, c'est dans les drachot. Ish, ça exclut isha jusqu'à ce qu'on la réintroduise. Ish, c'est un masculin. Il y a un yud, et dans isha, il n'y a pas le yud où il est nistar, et il y a un ré. Voilà. Donc, les positions sont, voilà, seulement Abraham, oui, Abraham comme personne, va devoir récupérer du hé pour proposer un universel. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, cet universel propose le brit, on va dire, oui, ça n'est pas l'universel des nations. On va essayer d'en toucher un mot dans la suite. Hein? Donc là, isho, c'est un possessif. Donc j'éviterai de. C'est pas un nom, c'est pas le substantif lui-même. Alors regardez, juste avant de. Oui?
Parce que je ne sais pas si vous allez continuer sur ce texte ou prendre un autre texte, je crois. Voilà, je voulais faire remarquer quand même que dans ce texte, d'abord, je suis très content de vous entendre développer ce thème, puisque moi-même j'avais fait une conférence sur Israël en tant que peuple féminin, justement. Et la suite du texte est parlante, parce que il y a féminisation d'Abraham, pas seulement dans son nom, mais aussi dans son corps, parce que tout de suite après, au pasuk Yud, c'est Vezot Beriti Himol Lachem Kol Zachar. Il y a la brit mila qui est ordonnée. Donc moi c'est une idée que je soumets au Rav Grunstein, à tout le monde. Je vois ça comme une espèce de petite castration symbolique au niveau de la au niveau de la Brit Mila, qui est une féminisation effectivement de l'aspect masculin, peut-être comme vous le disiez, un peu trop conquérant. Pour donner naissance à une masculinité qui est plus adoucie, quelque chose comme ça.
Voilà, c'est toujours compliqué de traduire. Oui. On va rester au plus près des images et on va dire que quelque part, en tout cas, il y a une ouverture. On déchire quelque chose, on enlève la orla, voilà, la rêle, oui. Donc on ouvre quelque chose, une clipa, comme on a l'habitude de dire, hein, aussi, quelque chose qui masque. Il faut sortir de quelque chose qui tourne en rond. Est-ce qu'on va appeler ça castration ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui tourne sur soi. La orla ramène à soi-même, oui, et il faut déchirer et ouvrir. Donc, et cette ouverture va se ressentir vers l'autre, vers les umot haolam, oui, et permettre à la femme d'exister comme telle. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez relever, c'est que c'est marqué zot. Ouais. Zot, c'est un féminin, et ça désigne le brit. Ça désigne la Torah, ça désigne le brit. Hein, vous savez justement quand on dit Bezot Shavu Aaron dans Haremot, là, dont on vient juste de lire, Bezot Shavu Aaron, on est d'Oresh, ainsi donc Aaron rentrera dans le Kodesh HaKodeshim, etc. Bezot, un des aspects du Zot, c'est Zot Briti, c'est le Brit. Le Brit permet justement l'intimité du Kodesh HaKodeshim, et peut-être on peut aussi lâcher le mot de l'intimité avec Sarah, oui, le Brit va ouvrir un champ d'intimité qui autrement est masqué, voilà, par un masculin, voilà, qui prend toute la place, oui, et qui empêche peut-être l'expression
d'une intériorité, d'une intimité. Et c'est le Brit qui permet aussi de se rapprocher d'Hachem dans le Kodesh HaKodeshim, de même que la Torah, de toute façon la Torah elle-même est appelée un Brit. Voilà. Il y a toujours ce lien, hein, cette déchirure, on va dire, de ce qui est, je préfère garder ce lochon des Chachamim, une chrysoniout, une coquille, qui empêche d'accéder à l'intérieur des choses. Il faut, voilà, c'est ça ce qui s'opère chez Abraham, qui commence de s'opérer, parce qu'évidemment, ce n'est pas l'intervention chirurgicale, si je peux dire, qui va tout d'un coup tout changer, oui. C'est la métaphore de ce qu'il faut maintenant déchirer, être prudent, faire attention à ce qui nous enferme, oui, dans un ego, je ne sais pas, dans nous-mêmes, voilà, comme ça je le dirais. La déchirure, ouvrir la horla, faire exploser la clipa, sortir d'une angle de bois, si vous voulez, on pourrait dire comme ça, ou d'un langage qui se renvoie à lui-même, oui, ou de ce qu'on appelle l'entre-soi aussi. Mm-hmm. Oui. Il y a tout ce genre de choses. Voilà. Alors, regardez, je voulais juste faire passer, alors c'est pareil, faire passer ce midrash-là, on va le voir rapidement. Bon, on attend un petit peu. Alors, faites passer. Oui, allez-y, d'un côté, de l'autre.
Question en attendant,
oui, oui, allez-y.
Avant de masculin. Oui. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait le masculin ne se désintègre pas, il reste yod tout le temps, c'est-à-dire yod dans le sarai, et il reste, et ce sarai, ce yod part ensuite par exemple dans le nom de Yehoshua. Autrement dit, il reste toujours solide, il ne se désintègre pas comme dans l'explication où le yod deviendrait hé.
Oui.
Est-ce que c'est ça? Est-ce
alors,
que c'est...
Cet aspect-là, c'est pour les femmes, hein, mais cet aspect-là, je dis, voilà, le jour, c'est une lettre, toi. Il y avait une lettre, naturellement, le monde s'arrête. C'est une réalité de la création. Donc, une réalité, c'est-à-dire, Hachem a voulu qu'il y ait cette dimension-là. Elle peut avoir des défauts, elle peut ne pas être à sa place, alors il faut lui trouver sa place. Et tout se passe comme si le bris resituait le lieu du masculin. Mais il n'est pas question de les intégrer. Effectivement, le yu,
il est ferme.
C'est la roche, c'est le fer, c'est une dimension dure. C'est une dimension qui ne peut pas se diluer. Mais encore faut-il qu'elle soit à la bonne place. Si le yu est à la fin du jour de Sarah, s'il n'y a pas de brite, s'il y a la horla, on n'accédera pas au Kodesh HaKodeshim, pour aller très vite. Voilà.
Mais alors, dans cette hypothèse, le yu ne se désintègre pas.
Oui. Libre.
Oui. D'ailleurs, on voit bien que c'est du masculin, puisque Sarah, il me semble que quelque part dans la paracha, elle est désignée comme ou, on lit, enfin, elle est masculine, elle est vraiment.
Oui, à un moment, oui, le midrash te dit comme ça en tout cas. Oui, oui.
Alors, dans ce cas-là, d'où vient le hé chez Sarah et chez Abraham? C'est ça la question.
Alors, la question, ça vient, c'est ce que le Brit décrit, le fait d'avoir entaillé, oui, d'avoir entaillé le Yud, oui. Bien que le Yud reste, il donne naissance, oui, c'est difficile à décrire, ce Yud-là. Hein, alors, soit on dit simplement il a migré, on l'a remis à sa place et on a mis un Hé, oui, chez Sarah, et on a créé, dans cette économie-là, on aurait créé un Hé chez Abraham. Alors, il y a l'autre Midrash, les deux Midrash, à mon avis, s'articulent. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement de resituer le lieu du Yud. Oui. Il faut le détacher du nom de Sarai, le mettre au nom de Yehoshua, le mettre là où il doit être, d'une manière générale. Voilà. Et ça va laisser apparaître, oui, dans le sillage, oui, va apparaître le Hé. Comme si ce Hé, il était nistar, il était caché, il faudra dire ça, et il attendait de surgir.
Oui, c'est très
différent. Oui, voilà, le Hé attendait de surgir, et il surgit aussi au même moment, même sans avoir recours au midrash du partage du yud en deux, il surgit, voilà, quelque chose surgit, le féminin, qui du coup surgit chez Sarah et surgit chez Abraham. Alors que le yud était oppressant, on va dire comme ça, était oppressant, muselant, je sais pas, verrouillant, ouais, etc. Le remettre à sa place, mais comme j'ai dit, le remettre à sa place, quand on est avec des guillemets, c'est-à-dire qu'on le bazarde, non, il n'est pas question de bazarder, c'est ce que Rashi veut dire, oui, mais il faut le remettre à sa place, bonne.
c'est étonnant dans la mesure où vous dites qu'il est dur, qu'il est, c'est roche, c'est chalé, alors que c'est la plus petite lettre.
Il y a plus
c'est la plus petite lettre. Il est, c'est, oui. Graphiquement, c'est totalement minimal.
Voilà. Bon.
Et le ré, c'est un yud sur un autre.
Oui, il y a la lettre avec un yud. Non, mais j'ai pas. Ouais.
Non, mais ça pourrait.
C'est une petite lettre. Non, ça veut dire c'est une petite lettre, mais elle est dure, hein, comme les comme les points dressés. Voilà, c'est la petite lettre, mais qui est. Oh, si on veut, c'est aussi le centre. En général, le yud va désigner le centre. C'est le point.
Ouais.
Le centre, donc c'est un centre de gravité. Mais hein, alors regardez, j'ai juste fait passer le midrash. On va rapidement voir. J'ai souligné.
Je pense qu'il y a une question pour assez importante. Norbert Abenaïm.
Quand on fait Norbert, quand on fait une circoncision, on ne féminise pas un homme. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas féminisé parce qu'il est circoncis. La Brit Mila n'est pas un abaissement de masculinité. À la limite, ce qui abaisse la masculinité, c'est quand on enlève les testicules. Mais le gland n'est pas du tout un signe. Le fait de le raccourcir n'est pas un signe de féminisation. Donc, dans l'explication que vous donniez par rapport à Abraham, vous disiez la circoncision est une baisse de masculinité. Non.
C'est quand même une masculinité moins agressive, moins conquérante. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et
d'ailleurs, on le voit aussi, par exemple, quand on compare Yaakov et Esav, qui sont deux jumeaux, hein. On nous dit que Esav ish yodea tsaïd ish sade, c'est quelqu'un de un chasseur, un homme des champs, de l'extérieur. Ve Yaakov ishtam yoshev oalim. Yaakov est un homme simple qui résidait dans les tentes. Or, qui réside dans les tentes? La tente de Sarah, la tente de Rivka, c'est un signe féminin, la tente, c'est un signe d'intériorité. Donc c'est voilà.
Le langage des familles est important quand on parle de Genève. Il y a ce langage de Orla. Comment je dis le langage de Orla aussi?
Il y a le fait, vous savez, parfois, c'est interdit de se regarder dans un miroir pour un homme. Sauf pour certaines occasions, pour aller voir le Meller, je ne sais pas quoi. Mais c'est une bonne image pour l'homme. Ça veut dire, tu regardes, en général, si tu regardes dans un miroir, surtout pour se coiffer, pour enlever les cheveux blancs, voilà. Il y a un regard sur sa propre masculinité. Ça, il faut enlever. Tu peux être masculin, mais à condition que ça ne fonctionne pas, hein, en boucle, que tu ne sois pas devant le miroir de ta propre réalité, vous voyez, que tu te comportes devant ton miroir intérieur. Ça, non. Voilà. Tu peux être, c'est même conseillé d'être un homme, mais pas un homme devant ton miroir. Ça, c'est la horreur, si vous voulez.
Un homme en relation avec le féminin.
Oui, en relation, voilà. En relation avec le féminin et pas en relation avec lui-même. Oui.
Voilà.
Voilà. Alors, regardez juste, je vous ai amené ce midrash-là. Mais on va peut-être avancer. Celui d'en haut, il y a deux midrashim, un en haut, un en bas, sur lequel on va revenir. En haut, juste, hein, c'est marqué « Vemarim Sarah Ishtecha ». Je vais juste souligner le texte où on voit que c'est marqué « Rabbi Yodam Beshem Resh Lakish Ikar Metron Avala ». Le midrash dit qu'il n'y avait pas de matrice, matron, oui, metron, oui, en latin. « Lo Avala veut galafla que je vous crois, Hashem lui a façonné, creusé, si vous voulez. » C'est comme Kolef. Galaf, Kolef avec un couf, c'est la même chose. Il a façonné Hachem Ikar Metron. Ikar Metron, ça veut dire la matrice elle-même. Il n'y avait pas. Ouais. Il fallait faire. Bon, c'est un langage du Midrash à ne pas prendre au premier degré, mais ça dit quand même quelque chose dans la mesure où le féminin est lié, oui, beaucoup à la matrice. Oui. Il y a quand même cette dimension-là, cette dimension matricielle, oui. Et d'engendrement, et même au niveau, disons, on va dire, de toute la structuration du féminin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a une place importante. Voilà. Alors regardez, je voulais aborder maintenant un deuxième aspect, c'est qu'un hé que l'on rajoute à un nom, on le trouve aussi, et on aura besoin du deuxième midrash, à propos de Yosef. Alors regardez, c'est encore un autre texte qui nous renvoie au Tehilim 81. Alors, faites passer. Là, on pour moi. Voilà, oui. Faire passer, faire le tour. Alors, toujours pareil, il y en a entre 16 et 18.
Et donc, 80.
Pardon ?
Tehilim 80.
Tehilim 81. Ah. Oui. 80 P Aleph. Oui. Et c'est le verset d'Aleth et les suivants hein, dans P Aleph. En passant, on va récupérer d'autres petites notions intéressantes. Alors, c'est marqué là-bas, c'est un des versets qu'on dit dans le Kiddush et même dans le Tfila de Rosh Hashanah. Et d'où on apprend, enfin, le Midrash, évidemment, apprend que Yosef est sorti de prison, là, le fameux rêve de Pharaon, dans Miketz, oui, ça se serait passé un Rosh Hashanah. Il est sorti de prison en Rosh Hashanah, c'est ce que semble dire ce Midrash qui fait allusion, bon, Midrash, ce Tehilim, pardon, hein, ce psaume qui fait allusion, le Midrash le reprend. Voilà. Alors on va le voir tout de suite si vous l'avez. C'est marqué Tikou Bachodesh Shofor, sonner Bachodesh au jour du mois, ouais, Rosh Chodesh de Rosh Hashanah, hein, du Shofar, Bakese, ouais, au jour de fête, Yom Chagenu, le jour de notre fête, c'est un peu synonyme, dans le rassemblement si vous voulez, Yom Chagenu de notre fête. On sonne du Shofar, Bachodesh, ouais, c'est Rosh Hashanah, et la seule fête qui a lieu à Rosh Chodesh si vous voulez. Ouais, les autres fêtes sont ou au milieu du mois, ou alors le 6 Sivan. Il n'y a pas de fête, de, alors, ou le 10 pour Yom Kippour. Voilà. Tikou Bachodesh Shofar, Bakese Yom Chagenu, oui, dans Bakese, lorsque les gens se rassemblent, c'est un peu redondant avec Yom Chagenu. Kichok le Israël Hu, c'est un décret pour Hachem, Mishpat le Yaakov, oui, un jugement, oui, pour le Dieu de Yaakov. Bon, certains expliquent que ce qui est un roc pour nous, en fait, pour Hachem, c'est un mishpat. Il y a d'autres lectures, oui. Ça veut dire que le roc, c'est quelque part, on ne comprend pas bien comment fonctionne cette convocation. On est convoqué une fois par an pour être jugé, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est un roc. Hachem, il a son moment, si on peut dire, enfin, moment, en fonction des êtres humains, hein, pour nous juger. Mais pour lui, c'est clair. Mishpat le Yaakov, il y a une logique à ça. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Edut bi Yosef Somo. Il en a fait un témoignage dans Yosef. Yosef, auquel on ajoute ici un hé. Hein, Yosef ne s'écrit pas normalement avec un hé. Ici, on lui a adjoint dans le Tehilim de David un hé, Yosef. Donc, on a fait de ce Rosh Hashanah un témoignage dans, à travers, si vous voulez, l'histoire de Yosef. Mais c'est soit l'Eretz Mitzrayim, lorsqu'il est sorti sur la terre d'Égypte. C'est l'histoire où Pharaon a fait son rêve, et tout ça, les vaches grasses, les vaches maigres, etc. Et on lui sort Yosef de prison pour le lui interpréter. Ça se passe à Rosh Hashanah. C'est ce qu'on croit comprendre ici. Oui. Rosh Hashanah, il y a un témoignage de Rosh Hashanah dans l'histoire de Yosef, le jour, si vous voulez, lorsqu'il est sorti sur l'Égypte, qui était, semble-t-il, un Rosh Hashanah. C'est Fat lo yidati eshma. Et là, on ajoute autre chose, une langue que je ne comprenais pas, Eshma, maintenant, je comprends. Il y a plusieurs lectures de ce, fat, de ce texte, ce Fat Loïdati Eshma, oui, je ne l'ai pas photocopié ici, quelqu'un comprend, hein, oui, que la langue de celui qui a créé le monde et que je ne connaissais pas, hein, maintenant je la comprends. Ça voudrait dire, mais on va voir qu'il y a une autre lecture, mais au niveau du pshat, ça veut dire que Yosef, quand il est sorti de prison, avec l'histoire du rêve, il a compris quelque chose dans son histoire. Il a commencé à comprendre la langue de l'histoire, la langue d'Hachem. C'est intéressant. Rosh Hashanah, quelque chose se clarifie pour Yosef. Il comprend ce qu'il faisait là. Oui. Il comprend ce jour-là qu'il a une possibilité d'aider ses frères, qu'il y a une famine et tout ça, ou qu'il va y en avoir une. Etc. Il comprend quelque chose à son histoire, parce que jusque-là, il n'a rien compris. Ses frères l'ont vendu, il était en 10 ans en prison, etc. C'est parce qu'il lui arrive. Oui. Et donc, ce fat-là, c'est intéressant. Une langue que je ne comprenais pas, la langue d'Hachem, dans ce sens-là. Et je m'en vais voir que le Midrash a une autre lecture, mais il y a une lecture comme ça. Voilà. Je comprends quelque chose à mon histoire. Alors, en passant, puisque déjà on y est, on voit que on a dit avant sonner du shofar à Rosh Hashanah, dont j'ai fait un témoignage dans Yosef. Pardon. Ça signifie ceci, qu'on peut déjà savoir par ailleurs concernant le shofar, que dans Rosh Hashanah, il y a une dimension de libération. Il y a une dimension de libération. Yosef est libéré de sa prison. Mais c'est aussi une dimension de libération pour nous, évidemment. Ben, voilà, une dimension de libération intérieure. Il y a un travail de libération qui se fait en Rosh Hashanah, la Teshuvah, tout ça. Hein, oui, ça se comprend aussi comme un travail de libération. La preuve, si vous voulez, métaphorique par Yosef, qui est libéré et qui comprend quelque chose à son histoire à Rosh Hashanah. Alors nous, on n'a pas toujours des histoires... voilà, on n'est heureusement pas dans les geôles de Pharaon. Enfin voilà, parfois il y a des situations difficiles à comprendre, oui. Et Rosh Hashanah permet parfois de voir plus clair, oui, dans notre histoire. C'est une dimension de libération. Le travail qu'on fait pour dépasser ce qu'on est, nos fautes, je ne sais quoi, c'est un travail libérateur. Et le shofar est un symbole, en passant, puisque Dieu envoie le pasouk, de cette libération. Comment on le sait ? Parce qu'on voit qu'au jubilé, oui, au Yovel, quand on libérait les esclaves, hein, les d'Ivry, esclaves juifs, étaient libérés, au jubilé, tous les esclaves étaient libérés, oui, on s'en dit chauffard pour ça. Le jubilé, c'est une fête de libération. On ne va pas rentrer maintenant dans pourquoi il y a des esclaves juifs et tout ça. Voilà. En fait, il y a un désir, hein, il faut comprendre pour aller très vite, Sylvia en évoque, oui, qu'il y a dans l'homme un désir d'asservissement. Hein. Les esclaves dont on parle là-bas, la plupart du temps, hein, ils le sont volontairement. Ce n'est pas si simple que ça. La Torah apprend à l'homme et on oblige les gens, les esclaves eux-mêmes doivent être libérés. S'il ne veut pas être libéré, on le fout dehors, la maladie, à coup de bâton, s'il faut, entre guillemets. Il faut qu'il apprenne à être libre. Bon, fin de la parenthèse, mais le shofar accompagne de Yovel et c'est du shofar de Yovel que l'on apprend la notion de shofar, oui. Parce que c'est marqué Yom Teruah dans Rosh Hashanah. On ne parle pas du chauffard. D'où tu sais que c'est du chauffard? Parce que dans Yovel, c'est marqué chauffard Teruah. Alors tu comprends que la Teruah de Rosh Hashanah, c'est avec un chauffard. Donc si, le principe d'une dracha, hein, c'est d'enseigner quelque chose. Si tu importes le chauffard de Yovel dans Rosh Hashanah par cette dracha, c'est-à-dire que le mot chauffard n'est pas marqué dans Rosh Hashanah, il est marqué dans Yovel et tu l'importes, oui. Alors ça veut dire que tu importes la notion de libération. Le shofar est un signifiant de libération et on ne s'étonne pas que Yosef, d'une certaine manière, ait été libéré. Hein, c'est une levée d'écrou pour lui, mais une levée d'écrou intérieure. Oui. C'est-à-dire qu'il commence à comprendre quelque chose au Ratzon d'Hachem, quelque chose à son histoire. Pendant 10 ans, 12 ans, il n'a rien compris. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Alors, il se trouve qu'à cet endroit-là, on a ajouté un « hé » à Yosef. Oui. Et d'Udbi Yosef. Tout d'un coup, Yosef se trouve affublé d'un « hé » en plus. Oui. Alors, il y a plusieurs lectures sur ce « hé ». Oui. Il y en a une dans le Midrash d'en dessous. Je vais le lire et le traduire. Ici, là où j'ai souligné. Or, évidemment, ce « hé » qu'on ajoute à Yosef fait penser... On est en droit de penser que c'est le même qu'on ajoute à Abraham. Et on va voir que c'est le même, d'une certaine manière. Regardez. Omar Rabbi Chia Baraba, Omar Rabbi Yochanan. Bon. Beshar Shomar lo paro le Yosef, quand Pharaon a dit Yosef, Bilo decha lo yarim ish et yado. Il le nomme surintendant, je ne sais pas, de l'Égypte. Oui. Sous lui, il dit personne ne bougera la main, oui, sans ton ordre. Donc Yosef est responsable de toute l'Égypte, oui. Juste, il a Pharaon au-dessus de lui. Omrou istanine Pharaon, les mages, les conseillers simplement de Pharaon, ils ont dit Evet, shelokro, rabo, beisrim, kesef, un esclave que son maître a acheté pour 20 sous, oui, tamchileo, aleinu, tu veux nous le mettre comme chef de toute l'Égypte? C'est quoi ce truc? Omar laen, Pharaon leur a dit Ginune malchut aniro ebo. Il dit je vois qu'il a une dimension royale. Ouais. Il a une classe royale. Je vois, Guinouné, c'est une couleur. Ouais. Il a une couleur royale. Ouais. Il a quelque chose, ce personnage, ouais, qui mérite d'être à la tête de l'Égypte. Ils ont dit, Omrou, Omroulo, il dit, ok, Imken, Yeyodéa, Shivim, Lachat. Mais alors, on veut qu'il sache les 70 langues, des 70 nations. Hein, vous savez qu'il y a un concept, qu'il y a 70 nations, bon, c'est un chiffre symbolique, ouais. Il y a 70 nations, oui, et qui parle 70 langues. Donc, c'est aussi une dimension d'universel. L'Égypte, c'était un certain universel. Tout gouvernant de l'Égypte, et Pharaon aussi, devait savoir toutes les langues. Bon, c'est un midrash. Ça veut dire qu'il doit avoir un esprit éclairé, si vous voulez, qui comprend toutes les langues, c'est-à-dire aussi, évidemment, les langues, voilà, les enjeux, les philosophies de chaque peuple. Donc il dit, ok, on veut bien, mais alors il faut qu'il sache parler 70 langues, il faudra lui demander. Ben Gabriel, velimdo shivinash. Alors vient l'ange Gabriel, oui, qui veut essayer d'apprendre les 70 langues à Yosef. Velo avakagama, il n'y arrivait pas. Yosef n'apprenait pas les langues, c'est difficile. Enfin, en 24 heures, je ne sais pas combien de temps, il fallait apprendre les 70 langues. Aussi flo hot achat, mishmo shelakoshbohu. Là, c'est ce que quelqu'un demandait tout à l'heure. On lui a ajouté un hé du nom d'Akoshbohu. Le nom d'Akoshbohu, c'est Yud Kevavke. Et là, si vous voulez, c'est, il a Yud Kevav. Il a trois des lettres du nom de Shem. Yehuda en a quatre. Bon, il y a toute une problématique entre Yehuda et Yosef. Pourquoi Yehuda a une lettre, a tout le nom d'Hachem, plus le Dalet, mais il a tout le nom d'Hachem dans son nom. Yosef a trois lettres. Bon, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ici, c'est Midrash dit, on lui a rajouté une lettre du nom d'Hachem, Velimed. On lui a rajouté un Hé. Et il a appris. Il a appris quoi? Les 70 langues. Chez Neymar, c'est notre verset. Edout bi Yosef Samo, mais c'est sur le reste d'Israël. Sefat le Yati Eshma. C'est grâce au Hé qu'on lui a rajouté qu'il a accédé à l'universel, qu'il a pu comprendre les 70 langues. C'est la même chose qu'Abraham, conjugué un peu autrement, à l'imparfait du subjonctif, si vous voulez. Mais c'est la même notion, oui. Voilà que Yosef, à qui on ajoute un hé, et il faut lui ajouter le hé, on lui ajoute le hé, et alors, ce fat lo yidati eshma, il comprend les langues de tous les peuples. En surimpression du pshat, qui dit il comprend la langue d'Hachem. Oui, c'est intéressant.
Le, et c'est le même hé que celui d'Abraham. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ce qui me fait dire ça, c'est que c'est simplement la même lettre hé, oui, et qui a la même fonction. Oui, ça veut dire, c'est la même fonction. Ça l'ouvre à un universel. Ça se dit autrement. Alors, il dit, ici, on dit, on l'a pris du nom d'Hachem. Fallait bien le prendre quelque part, ce hé. Mais je comprends que ce hé, c'est le hé de Sarah, c'est le hé d'Abraham, ne serait-ce que parce qu'il a une fonction, en tout cas, très voisine, d'ouverture à toutes les langues. Il n'arrivait pas, il était fermé à ça, on lui a ajouté un hé, et le voilà qui parle les 70 langues. Vous voyez ? Avant, il parlait la Shana Kodesh. Ça aussi, on va y revenir. Le rôle de la Shana Kodesh, il parlait la langue de sainteté de chez son père, oui, mais il ne savait pas parler 70 langues, c'est pas son problème. Oui. Et là, un hé l'ouvre. Littéralement, il y a une ouverture. Alors, c'est un hé du Hachem, d'accord ? Il y a aussi un Yud et il y a un hé. Et il y a un vav, oui, dans le nom d'Hachem, voilà, comme dans le Yosef, il fallait quelque part ouvrir, et il s'agit de la même chose. Si on avait ouvert un autre truc, je ne sais pas quoi, j'aurais dit, bon, un autre aspect du hé, mais c'est le même aspect du hé, oui, voilà.
Et, pardon ? Abraham peut garder son hé tout le long du récit. Marco, juste petit, demande si Yosef,
oui,
il ne perd pas son hé au cours du récit.
Non, alors on va dire comme ça, on est dans les Tehillim. Dans le texte de la Torah, jamais on écrit Yosef. Oui. Alors, mais dans les Tehillim, on comprend qu'il y a un hé sous-jacent. Sa capacité d'universel procède du hé d'Hachem, voire du hé d'Abraham. Seulement, on ne l'a pas enlevé Abraham. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, quand c'est comme ça, ce n'est pas dans la Torah. Donc c'est un nom sous-jacent. C'est-à-dire, c'est une dimension sous-jacente. L'universel de Yosef se dit aussi dans la lettre hé, oui, du féminin. Voilà comment on va le dire. Oui,
le hé qu'on nous a donné, c'est pas la Torah.
Pardon?
Ça, c'est, y a pas la Torah.
Non, non,
pas
c'est
la Torah,
le Tehillim. Non, dans la Torah, il y a pas le hé, c'est les psaumes. Voilà. Mais David, c'est intéressant d'ailleurs, David fonctionne un peu comme un rachis. David a des kabbalotes, oui, il a reçu des enseignements, et souvent, on apprend, c'est un peu comme un midrash, on trouve des sous-jacents dans David. David était éclairé. Et donc, s'il appelle Yosef, Yosef, en tout cas à cet endroit-là, oui, juste après, avec le problème de la langue, c'est parce que quelque part, Yosef s'appelle Yosef. Voilà. Alors, si vous voulez pousser un peu plus loin, hein, vous savez que dans l'habit du Kohen Gadol, il avait deux pierres, Avnei Shoham, avec les noms de toutes les tribus. Yehuda, enfin Reuven dans l'ordre, Shimon, toute une discussion dans quel ordre, oui. Et il y avait 50 lettres. 50 lettres en tout. 25 d'un côté, 25 de l'autre. si on s'en tient à Rashi, il y a des discussions, il y avait 50 lettres. On est dans l'ordre du 50. Or, quand on compte les noms des tribus, on arrive à 49. Alors on dit la 50e, d'après une lecture qui n'est pas retenue, mais quand même, c'est ce hé-là de Yosef. Donc il aurait été écrit avec ce hé. D'après une autre lecture, c'est Binyamin, qui est nommé par son père Binyamin avec deux youds. C'est intéressant, il y a deux youds, oui. Et habituellement, on n'en retient qu'un youd. Mais sur les pierres, il a été écrit avec deux youds. Donc ça se passe entre le deuxième youd de Binyamin ou le hé de Yosef. Voilà. Donc il a quelque part ce hé, oui, mais qu'on ne voit jamais, de même manière qu'on ne voit jamais le deuxième youd au fond de Binyamin. On le voit une seule fois dans la Torah, quand Yaakov appelle son fils Binyamin, oui. Et ailleurs, chaque fois que le nom de Binyamin apparaît, il n'y a pas le deuxième youd. Voilà. Donc voilà, on avait 50 lettres, soit c'est Binyamin, c'est les deux fils de Rachel. Soit c'est le youd, le deuxième de Binyamin, soit le hé. Voilà. On est toujours un peu dans ces mêmes eaux. Alors, rapidement, on continue. Alors, Vava Kagamar, je vous le dis quand même, c'est sympathique comme ça. Et après, c'est marqué Ulmachar, Kol Lishna de Ishtai Paro. Pharaon l'a testé, donc il lui parlait dans toutes les langues. À Derlé, il lui répondait du tac au tac dans toutes les langues. Badé, Ishtai. Ishtai ou Belashna Kodesh. Par contre, Yosef parlait, lui, de Lashna Kodesh. Velo Ava Kayeda. Et là, Pharaon ne savait pas ce que c'est que ce truc. Il ne connaissait pas cette langue. Ça, on va y revenir plus loin. Il ne connaissait pas Lashna Kodesh. Lava Yeda Mayava. Il ne sait pas ce que c'était. Omar, ouais, Mayava Omar, il ne comprenait pas ce que disait Yosef. Omar Le, Igmar, Igmere, Velo Gamar. Il dit, je vais apprendre. Alors Yosef lui a appris, a essayé de lui apprendre, il n'arrivait pas à apprendre. Lashna Kodesh, alors que Pharaon connaissait, si vous voulez, théoriquement, les 70 langues, Lashna Kodesh, il ne pouvait pas rentrer là-dedans. C'est autre chose. Omar Le, Ishtivali, alors c'est une histoire connue, hein, il lui a dit, alors tu me jures que tu ne diras jamais que je ne connais pas cette langue. Voilà. Et il s'en est servi quand il a fallu enterrer Yaakov. Pharaon ne voulait pas le laisser sortir avec Yaakov. Oui. Alors il lui a dit, mais j'ai promis à mon père de l'enterrer. Il dit, tu n'as qu'à annuler ton serment. Et Pharaon dit à Yosef, fais annuler par les Chachamim ton serment, on peut le faire. Alors Yosef dit, si c'est comme ça, je peux aussi faire annuler ton serment que je t'ai fait, ouais, sur la langue. Alors Pharaon a cédé. Voilà, bon, ça c'est les petits détours de Midrash. Bon, il y a un sens, oui. Voilà. Alors, retenir ça, oui. Donc, l'accès aux 70 langues se dit dans le hé. En même temps que dans un autre niveau de lecture, ce hé, c'est l'accès, oui, à la parole d'Hachem. Comprendre le sens, c'est une expression un peu, oui, le sens de l'histoire, en tout cas, comprendre la langue de l'histoire. Comprendre une langue qu'on ne comprend pas. On voit bien, on ne comprend pas toujours, pas tout de suite en tout cas, hein, oui, ce qui se passe dans le monde. Et là, Yosef comprend quelque chose de la langue d'Hachem, et en même temps, il comprend quelque chose des langues des hommes. Et il y a son Lashon HaKodesh. Alors, on va un peu avancer sur cette langue-là. Qu'est-ce que c'est que cette langue-là que Yosef a, que n'ont pas les nations, que n'a pas Pharaon? Alors, on va voir, il y a un texte ici intéressant, parce que tout le monde est d'accord qu'en Égypte, il y a des traducteurs, je ne sais pas comment on dit, des traducteurs, oui, qui savent parler l'ivrite. On peut dire la langue, le ivri, la chan ivri. Ils savent parler cette langue-là. Mais apparemment, ce n'est pas la chan kodesh. C'est ça qu'on va un peu travailler. C'est quoi la chan kodesh? Oui, parce qu'il y a une langue cananéenne qui s'appelle l'ivri. C'est la langue des Cananéens, c'est la langue dans laquelle s'expriment les fils de Jacob, les tribus sémites, on dirait, de nos jours. Voilà, et les Éthiens connaissent ça. C'est leur voisin. Oui. La preuve, juste à côté d'Égypte, vous avez la Palestine, si vous voulez. Voilà, Kenaan. Voilà. Ils connaissent cette langue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la Shana Kodesh? Alors, on va aborder ça. Hein. Voilà, donc, juste pour faire l'articulation, notre hé, oui, de l'universel, c'est un universel des langues. Ça, par contre, il faut peut-être dire. C'est un universel des 70 langues. Oui. Comprendre les 70 langues. Alors, il y a la version Pharaon et il y a la version Yosef, évidemment. Mais il y a une manière, oui, d'être un père pour les peuples, oui, mais parce qu'on comprend leur langue. Chacun parle sa langue. Il y a 70 langues, ils parlent leur langue, oui, et il s'agit de parler leur langue autour de la chambre de Kodesh, puisque Yosef parle aussi de la chambre de Kodesh. Pharaon, c'est notre père de manche. Il ne parle pas de la chambre de Kodesh. On va essayer d'avancer là-dedans.
Il a aussi un hé.
Hein?
Il a aussi un hé, Paro.
Paro un hé, mais bon, voilà. Alors, regardez, où est-ce qu'on va aller voir ça? C'est dans l'histoire. Je reviens à mes sources, si je peux dire, dans Yosef. Oui, voilà. Alors, l'histoire de Yosef, voilà, chapitre 45. Alors là, il faudra avoir recours. Je n'ai pas forcément fait une photocopie de ça. Voilà. Alors, il faut prendre des roumachines. Hein, alors, peut-être. Ou alors, attendez, sinon, il faut. Yosef, chapitre 45, verset 5. Oui, c'est Vaïgash. Hein.
Ah oui, d'accord. Alors, super. Alors, la première photocopie que vous avez reçue.
C'est bien, tant mieux. Alors, tant mieux.
Distribuée.
Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Elle a été faite par erreur, mais ça tombe bien. Voilà. Ok, très bien. Je vais la retrouver chez moi aussi, alors, ou sinon je la retrouve dans le texte. Voilà. Oui, voilà. Ok. Voilà. Alors, il faut quand même juste voir un pasouk avant. Alors, celui-là n'est pas photocopié. Si vous avez le roumash, et après, on arrivera sur la photocopie. Allez, c'est dans le chapitre 45, le verset Hé. Oui. Dalethé, pardon. 4 et 5 du chapitre 45. C'est la rencontre de Yosef avec ses frères. Hein, quand il a dit, voilà, c'est moi Yosef, etc. Quand il se dévoile à eux. Yomer Yosef et les Chav, Geshuno, Elai. Rapprochez-vous de moi, Vaïgoshu. Et ils se sont approchés. Hein. Si vous trouvez, donc chapitre 45, versets 4 et 5. Dans Vaïgash, hein, si vous avez un texte. Voilà, de toute façon, je vais vous le dire. C'est le Rashi qui rajoute quelque chose qui n'est pas écrit dans le texte. Donc, Vayomer Yosef Elechav Geshuno Elai. Approchez-vous de moi. Vayigoshu. Et ils se sont rapprochés. Vayomer, et il leur a dit Ani Yosef. C'est le moment précis où il se dévoile. Ani Yosef Achechem. Je suis Yosef, votre frère. Asher Mechartem Oti Mitzraimo. Qui est-il que vous m'avez vendu, que vous avez vendu, oui, en Égypte. Implacable, oui, il leur raconte leur histoire. C'est moi, Yosef, que vous avez vendu en Égypte. Bon. Ils sont là, oui. Va'ato al-teosvu, va'al-yechar be'inechem, ki mechartem oti, ne vous fâchez pas pour m'avoir vendu ici, qui le mirio shelochani, hein, c'est ce fameux sfat, lo yodati eshma, en fait, Hachem m'a envoyé ici pour vous nourrir. Bon, ce fameux plaidoyer de Yosef, oui, il m'a envoyé devant vous. Bon, on est obligé de dire, compte tenu de la petite coude du personnage, qu'il est entièrement dans ce qu'il dit. Ce n'est pas pour adoucir et tout ça. Il le pense lui-même. Bon, ça, c'est Sfat, Loyati et Shema. Il leur dit ça. Il leur dit, vous n'avez pas... Ce que vous avez fait, finalement, c'est positif. C'est pas que positif, oui. Mais voilà, on peut vivre ensemble, c'est positif. Oui. Il fallait passer par là pour que vous descendiez en Égypte. Alors, c'est le Geshuno. Rashi ramène le Midrash et il dit Geshuno. Geshuno, Ra'a otam nisugim l'achor. Oui. Il dit Geshuno est là, et veille Geshu vayomer ani Yosef achechem. Oui. Il a vu, oui, parce que juste avant, il leur a déjà dit, Ani Yosef. Hein. Juste avant, il dit, je suis Yosef. Mais il n'a pas dit que vous avez vendu en Égypte. Il dit, je suis Yosef, Aod Abichai. Est-ce que mon père est encore en vie? Velo yochlu echav la anot oto. Ils sont restés muets. Ils ne pouvaient pas lui répondre. Kini valou mipanav. Il était affolé, là. Alors, il revient à la charge. Il dit, approchez-vous. Vous voyez, c'est moi, Yosef, oui, que vous avez vendu en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux phrases? Rachidi, Ra'a otam nisogim l'achor. Il les voit, comme le terme dit, hein, liv alu mipanav, ils sont blêmes. Oui. En plus, il est surintendant d'Égypte, oui. S'il veut les faire pendre, il les fait pendre. Oui. Donc ils sont blêmes. Ra otam nisogim l'achor, omar achshav, echai nichlamim. Ils disaient honte. Je ne vais pas leur faire honte. Le but de la manœuvre n'est pas de leur faire honte. Kara la'em belashon raka. Alors il les appelle dans une langue adoucie, oui. Vetachanonim, des suppliques presque. Vara la'em sheumaoul. Il leur montre qu'il est circoncis. Bon, toujours un midrash évidemment, oui. C'est un midrash, je ne sais pas comment les gens. C'était quoi le savoir-vivre de l'époque, mais bon, il leur montre qu'il est circoncis. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu? Alors, on va voir le deuxième texte, celui que j'ai photocopié, mais il faut se rappeler de ça. Quand il veut s'identifier à eux, il leur montre sa circoncision. Or, tout le monde va demander, mais à l'époque, il y a beaucoup de gens circoncis. On sait même que les Égyptiens eux-mêmes étaient circoncis. On a trouvé Ramsès dans la momie, on voit qu'il était circoncis. Il y avait les Ismaélites, les Ismaélites de l'époque. Il y a du monde qui est circoncis. Ça ne prouve pas grand-chose. Ce n'est pas imparable. C'est quoi ce jeu? Alors, on va voir le deuxième test et on va y réfléchir. C'est quoi le roi? Alors, n'oubliez pas, on est parti de la circoncision, du bride d'Abraham. Oui, on est passé par Yosef qui apprend les 70 langues et qui maintenant leur montre qu'il est circoncis. Osma, comme dirait Farchi. Et quoi? Il est circoncis. Il y en a d'autres. Elle est où la preuve? Tout le monde dit, mais la preuve imparable, c'est quand il dit « Vous m'avez vendu ». C'est une preuve circonstancielle. Il sait quand même ce qui lui est arrivé, ils doivent s'en rappeler eux-mêmes. Oui. Alors ça pourrait être un faussaire qui a entendu parler de cette histoire-là et qui le raconte. Mais bon, c'est quand même assez crédible. Alors regardez le texte suivant. Donc celui de la photocopie, on est au verset 12, 11 et 12. Je vais prendre sur la photocopie comme vous. Il dit, voilà, faites dire à mon père ceci, qu'il descende en Égypte, et je te nourrirai là-bas, en Égypte, parce que je sais qu'il y a encore 5 années de famine qui attendent, hein, c'est le fameux rêve, pentivoresh atobesecho, oui, de peur que tu ne t'appauvrisses, oui, toi et ta maison. Donc Yosef a le souci que son père ne soit pas ruiné, il est venu en Égypte. Il y en a encore pour 5 ans. Le Cholacher l'or, donc de peur que tu sois ruiné, etc. Iné enechem ra'ot. Voici, il s'adresse à ses frères. Vos yeux voient, veine ochi binyamin, ainsi que les yeux de mon frère Binyamin. Ki pi amedaber enechem, que ma bouche parle, c'est moi qui vous parle. Rashi ajoute, en la Shana Kodesh. On est en train de faire un petit nœud, là, entre l'histoire des langues et le brit. Regardez Rashi. Parce que le verset est étrange. Vos yeux voient. Ils voient quoi? Oui? Que c'est moi qui vous parle de la Shana Kodesh? Qu'est-ce que tu veux dire? Un peu plus tard, ils me disent, mais une langue, ça s'entend. À la rigueur, il faut dire, vous entendez que je m'exprime dans une certaine langue. Qu'est-ce que vos yeux voient? Si on prend le texte, on prend toujours hyper, comme il y a du... de l'hyper-réalisme ou du surréalisme, oui, donc, hyper-réaliste, oui. Vos yeux voient, on ne voit pas une langue, on entend avec les oreilles, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ma bouche vous parle. Regardez Rashi. Veine enechem ra'ot. Alors il dit, vos yeux voient, hein, birvodi, la fonction que j'occupe en Égypte, oui. Ou shani achechem, et que je suis votre frère, shani ma'ul, kachem. Parce que je suis circoncis comme vous. Avec la question qu'on avait tout à l'heure. Ce n'est pas une preuve au lance-flamme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ve'od, dit Rashi, qui pire me daber elechem. En plus, comme si Rashi détachait de vos yeux voient ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire le pouvoir que j'ai. La plupart des Farchim m'expliquent que, voilà, je suis arrivé à une situation en Égypte. C'est la volonté d'Hachem, c'est-à-dire, c'est une histoire totalement. Surréel, oui, vendu comme esclave et tout ça. Oui, et je me retrouve là, vous pouvez bien penser qu'il y a une volonté d'Hachem ici, ça ne se fait pas tout seul, une histoire comme ça. Comme ça, il dit. Donc, vous voyez mon kavod dans ce sens-là. Vous voyez la situation dans laquelle je suis. C'est pas normal. Vous voyez la circoncision, puisque ça, ça se voit. Et en plus, vous m'entendez parler Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh. Oui. Vous m'entendez parler en langue, en Lashon HaKodesh. Tout le monde demande, mais parce que les Farshim disent, Rashbam par exemple, il dit oui, parce que jusque-là, il parlait avec eux, il s'était caché, il parlait par un interprète. Un interprète, oui. Il y avait un interprète qui traduisait égyptien, ivrite. Maintenant, lui, il parle aussi l'ivrite. Il a quoi de plus que l'interprète? Si son interprète sait parler, oui, alors lui aussi, c'est un prouve quoi que je parle à Shana Kodesh? Ça se situe où? Après, jusque-là, il utilisait un interprète pour s'adresser à eux. Voilà, pour le commerce, ils avaient un interprète. Ils parlaient toutes les langues des voisins, ou alors ils parlaient tous l'anglais, j'en sais rien. Il dit non, ils parlaient, comme on voit bien, que Pharaon devait savoir parler 70 langues, et puis ils avaient des interprètes pour les commerçants qui venaient chez eux. Oui, voilà, donc il y avait un interprète, etc. Et maintenant, il se dévoile, lui, par la chaîne à Kodesh. Il dit, il y a quoi de différent par rapport à la langue de l'interprète? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Et la circoncision, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, il y a d'autres gens qui sont circoncis. Et alors là, les Mefarshim vont articuler les deux choses. Alors, c'est cette photocopie, celle que j'avais distribuée avant du Midrash à propos de Sarah, la matrice. Le bas, j'ai photocopié le Midrash sur ce passage-là. Geshunu Elai, approchez-vous, il leur a montré la Mila, et ensuite, vos yeux voient. Hein. Alors, j'ai souligné ici, si vous repérez le Midrash, j'ai souligné ici une petite partie soulignée, Geshuno, et une deuxième partie soulignée. Oui, Yud Aleph, c'est le numéro, le Siman, si vous voulez, dans le Midrash. C'est le Midrash Rabba, sur la Paracha. Voilà. Geshuno Elai, Ar Alaem et Amila, Ani Yosef, Vata Lo Atem Shelartem, et c'est la suite. Donc c'est ce Midrash, c'est ça que cite Rashi. Je voulais juste vous montrer dans le Midrash. Il leur a montré sa circoncision. Deuxièmement, c'est marqué V'chi pi medaber elechem. Le Midrash dit Belashon HaKodesh. L'abréviation Bet Lamed He Kouf, c'est Belashon HaKodesh. Voilà. Bon, c'est tout. Le reste, voilà. Donc le Rashi vient de ce Midrash. Là-dessus, tout le Mefarshim demande, il dit mais c'est quoi ce truc? Et Rashi articule les deux. Vous voyez et entendez. Vous voyez ma mila et entendez que je parle à Shana Kodesh. Alors, il y a des Chachamim qui expliquent, j'ai oublié lequel maintenant, ça ne me revient pas, hein, je crois que c'est le Kli Yakar, qui dit les deux ensemble se croisaient. Tu peux avoir des gens qui parlent l'ivrite, oui, mais c'est des Cananéens, ils ne sont pas circoncis. Les Ishmaïm ne parlent pas cette langue-là. Il y a des gens qui sont circoncis, oui, ce sont les Ishmaélites, mais ils ne parlent pas la chalivrie, ils parlent une autre langue. Mais bon, ça, ça ne me paraît pas encore suffisant. Je pense articuler comme il y a de l'idée, c'est qu'il faut articuler les deux, évidemment. C'est ce que fait Rashi. Vous voyez que je suis Ma'oul, oui, et vous voyez ou entendez que je parle la Shana Kodesh. Il me semble, oui, que la Shana Kodesh, la langue sainte, la langue de la sainteté, elle est articulée au Brit. Oui. La Brit Mila, hein, c'est comme on a dit tout à l'heure, Bezot Yavo Aaron, comment on rentre dans la sainteté, dans le Kodesh HaKodeshim, hein, puisqu'il y a tout un enjeu de sainteté, avec le Brit. C'est la Brit Mila, hein, oui, qui permet de construire cette langue-là. Donc la Brit Mila permet d'ouvrir, d'avoir une oreille ou une langue pour les 70 nations, Avamon Goyim, ou Yosef lui-même, qui a un langage, oui, à travers le Hé, à travers le Brit, pour les 70 nations, oui. Et en même temps, oui, ce Brit, oui, lui permet de parler une langue que Pharaon ne sait pas apprendre, parce qu'il n'est pas dans le Brit d'Abraham, il était circoncis, mais c'est un autre truc. Voilà. Et c'est ce Brit-là, c'est-à-dire cette ouverture vers la sainteté, c'est ça qu'il faut peut-être ajouter, oui. L'ouverture à la sainteté, c'est ça l'ouverture du masculin vers le féminin, l'ouverture vers la sainteté, c'est une autre thématique, oui, qui lui permet de parler la Shana Kodesh, la langue de la sainteté. Le Brit, oui, permet de parler la langue de la sainteté. Et c'est ça les deux, oui. C'est-à-dire qu'il parle une langue qui n'est pas tout à fait l'hébrite, qui est une autre langue, une langue chargée qui permet de dire la sainteté, et lui montre la Mila. Les deux sont liés. Et là, oui, je crois que c'est Rabbeinu Bechaye, il dit ça, c'est un signe de reconnaissance plus puissant que l'événementiel. Vous m'avez vendu en Égypte. C'est vrai que, bon, ok, c'est pour l'inspecteur Bourrel, on va dire, c'est bien. Oui, c'est la preuve. Mais en réalité, l'articulation du brit et du langage, ça, c'est une preuve. Ouais. Ça, ils ne peuvent pas trouver ailleurs, ouais, ailleurs que dans la maison de Yaakov, qui, pour le moment, est le seul dépositaire de la marque, si je peux dire. Ouais. La marque étant le mot en français qu'utilise Rashi pour dire la circoncision. Ouais. Voilà, donc, voilà, ils sont les dépositaires de la marque, si on peut dire. Voilà. Alors, le matelot de Kehunat, j'ai souligné en bas, dit quelque chose, un peu comme ça. Mais la Shana Kodesh. Nire shafalpish beres kenoan oyu mesaprim velashon ivri. Les Cananéens, si vous voulez, ou les tribus sémites, parlaient une langue ivrite, la Shana ivri. Lo ayas fatam berura ou taor, ils n'avaient pas une langue claire et lumineuse. Taor, je traduis toujours par lumineux, pur en français, voilà. Mais Taor, c'est comme Zohar, c'est lumineux, Tsohoroyim, midi. Donc une langue lumineuse dans leur bouche, que Mobe Pi Am Kodesh, comme il y a dans la langue du Am Kodesh. La Shana Kodesh, c'est la langue du Am Kodesh, donc la langue de la Mila. Chez la M, dit Tiached la Shana Kodesh, parce que c'est eux seuls qui parlent la Shana Kodesh, que Moshe Omru Gabe Bilham, comme on dit à propos de Bilham, oui, Afalpi, chez Messiar Melashon Kodesh, bien que Bilham s'exprime, semble-t-il, en Lashon Kodesh, le Shono Sarouar, sa langue est pourrie. Sarouar, ça veut dire pourri. Et c'est intéressant, or Bilham, oui, c'est aussi un universel. C'est le conseiller des rois, oui, c'est le conseiller des rois, mais Bilham n'accède pas au Lashon Kodesh. Il parle un genre de langue qui ressemble à ça, oui, c'est le même vocabulaire peut-être, mais quelque chose est pourri, oui, quelque chose est pourri dans la langue d'Abraham. Oui, les deux sens sont... Il faut savoir que le Midrash, toujours dans sa langue imagée, dit, oui, quel est l'enfer de Bilham, c'est qu'il est trempé tous les soirs dans un chaudron de sperme bouillant, entre guillemets, oui, la goutte pourrie. Oui, c'est intéressant. Et donc, sa langue, elle dit ce qu'il est. Il y a quelque chose de pourri dans Bilham, parce qu'on dit Bilham ne comprenait pas pourquoi Hachem s'occupait de chaque naissance, de chaque fécondation. Il dit, mais c'est pas un truc tellement intéressant, disait Bilham. Il dit, non, c'est important. C'est là que surgit un être humain, il y a de la sainteté à cet endroit-là. Oui. Et Bilham, lui, il est dans la goutte pourrie, si je peux dire, il ne comprend pas ça. Oui. Et sa langue, c'est pour ça que je pense qu'il emploie le mot savoir, il a la langue de ce qu'il est. Sa langue est pourrie. Oui. Pourquoi elle est pourrie? Parce que d'accord, il parle un certain ivrite, mais dans son ivrite s'entend l'absence du brit. Lui n'est pas dans le brit. Donc c'est intéressant, avec Bilham, on a un universel, pourri. Sa langue est pourrie, et lui-même, quelque part, ne comprend pas pourquoi Hachem s'occupe de la fécondation, de la goutte, avec, etc. Pourquoi Hachem rentre là-dedans, quoi. Qu'est-ce qui se passe, oui. En quoi il y a une sainteté, puisque pourquoi Hachem s'en occupe, oui. Donc on est toujours dans ce problème-là, on revient au brit, c'est ça que je veux dire. On revient au brit, et le brit permet un universel, mais un universel qui se dit principalement à travers la Shana Kodesh. Aussi chez Yosef à travers 70 langues, mais articulé, adossé au fameux la Shana Kodesh, qui est le seul à parler en Égypte. Pharaon ne sait pas, ni personne d'autre. Et c'est la Shana Kodesh, oui, qui dit la circoncision, voyez, qui dit le Brit, voyez, ça, ses frères reconnaissent tout de suite. C'est ça qu'il leur montre. Voyez. Donc, Rashi découpe en deux, mais pas le verset. Le verset dit « Einechem ro'ot kipi medaber elechem ». Donc le verset dit « Vos yeux voient que c'est ma bouche qui parle ». Rashi décompose, ils voient le Brit et ils entendent la Shana Kodesh. Ça, c'est une manière de faire comprendre. Mais le texte, voyez, il faut toujours revenir au texte. « Vos yeux voient le Brit dans ma langue ». C'est ça qu'il faut comprendre. « Vos yeux voient que je parle la Shana Kodesh ». Et dans cette langue, ils voient, ils comprennent, si vous voulez, ils voient la dimension de Kedusha, la dimension de Brit. Kedusha, féminin, vous voyez. Il faut un peu rejoindre les ensembles. On a ici toute une thématique de la Shana Kodesh, oui, et de la langue sainte, qui se dit autour du Brit, puisqu'il leur montre son Brit, et dit, vous voyez que je parle la Shana Kodesh. Parce que les deux entrent en résonance. Il y a une résonance entre Brit et la langue qu'il parle, et ça, ça reconnaissent. C'est plus puissant, hein, que l'événementiel du fait qu'ils l'ont vendu, sans pour imaginer qu'il y a un type qui l'a entendu et qui l'a exploité pour les faire marcher. Mais là, il y a un élément de vérité. Un élément de vérité est dans la langue parlée, qui est une langue de sainteté. Alors, évidemment, les mots employés, c'est juste barour, clair et lumineux. Il y a une certaine lumière dans la langue, quelque chose qui transparaît, qui dit quelque chose de la sainteté, oui, lié au Brit. Il est Ma'oul. Peut-être aussi, c'est intéressant, hein, puisque le contexte, c'est qu'ils voient qu'ils ont peur, qu'ils se vengent ou qu'ils aient honte, il leur montre, alors ça c'est peut-être l'adoucissement dont vous parliez, il leur montre qu'il n'est pas dans la vengeance, en tout cas pas avec ses frères. Il a autre chose dans la tête, il a une sainteté, il comprend la langue d'en haut, en tout cas il comprend assez son histoire pour ne pas tomber dans une volonté de vengeance. Vous voyez, les frères auront du mal à le comprendre, mais c'est un vrai problème. Les frères ont honte, et ils ont surtout peur de lui. Vous voyez, et il essaie de leur faire comprendre qu'il n'est pas dans cette relation de domination, de pouvoir, de vengeance, etc. Il n'est pas là. Il a une lecture des choses, et il se remet à sa place dans cette vision des choses, cette langue qu'il comprend, hein, ce fat. L'Oyat Yeshma, la langue d'Hachem, et il remet ses frères à leur place. Oui. Il s'agit de remettre chacun à sa place, le reste relève d'Hachem. Peut-être qu'ils ont fauté, ils doivent être jugés, ça relève d'Hachem. Lui, il ne peut pas se venger. Ça relève d'Hachem, oui. Mais ça, c'est la démarche de Kedusha. C'est-à-dire qu'il n'est pas un politique. Il n'est pas sur un tendant d'Égypte. En tout cas, pas avec ses frères. Il n'est pas surintendant d'Égypte. Eux ont toute raison d'avoir peur de lui, et tous les pouvoirs qu'il a, et les sales coups qu'ils lui ont fait à vomir. Oui, il dit, je ne suis pas surintendant d'Égypte. Hachem m'a envoyé ici pour vous nourrir. Oui. C'est un certain personnage. Il est tellement sirli qu'il fait parfois un peu froid dans le dos. C'est un autre problème. Mais il a une capacité d'éclairer ce qu'il est. Et c'est ça sa langue. Vous pouvez comprendre aussi, parce qu'on dit, ok, vous voyez que je parle sur la Kodesh. Ben, c'est la langue qu'il parle. Quand il dit, Hachem m'a envoyé ici le Mirio. Il m'a envoyé ici pour vous nourrir. C'est pour ça que je suis là. C'est ça que j'ai compris. Et vous devez faire venir mon père ici. C'est ça la Shana Kodesh. C'est ça Sfat, au fond. La langue, une langue que je ne comprenais pas moi-même, tout d'un coup, je l'entends. J'entends la langue de l'histoire. Oui. J'entends quelque chose qui permet d'éviter les vengeances et tout ça, oui, qui permet d'attraper ce qu'il y a de positif dans cette histoire-là. Oui. Mais voilà, donc c'est un certain personnage. Alors justement, Yosef est tout à fait différent de Bilam. Bilam, toute sa préoccupation, c'est que de la haine. Bilam, tout son projet, c'est détruire Israël. Il est animé par la haine. Oui. Et sa haine va même le tuer. Oui. Alors que Yosef, qui aurait quelques raisons d'avoir un peu de haine, oui, n'en a pas. N'en a pas. Ça lui coûte, ça en fait un personnage particulier, on va dire. Oui. Mais voilà, il échappe, lui, à la haine.
En même temps, il ne pardonne pas explicitement à ses frères.
Voilà, alors il ne pardonne pas. Ouais, il ne dit pas explicitement un pardon. Oui, il ne dit pas. Alors même ça, c'est une thématique. On dit que au fond, il n'a jamais pardonné. Il ne pouvait pas tout à fait, mais il ne s'est pas vengé. Mais on dit que c'est pour ça qu'il est dit à Bougé-Marcoute. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant. Mais c'est une parenthèse. Ça veut dire, on n'est pas dans la logique du pardon. Il ne peut pas forcément pardonner. Ce qu'il peut, c'est ne pas se venger. Il peut rester juste. Pardonner, d'auteur de manche. Oui. Voilà. Mais... Voilà, juste ces passages d'en bas, hein, où même ceux qui parlaient un certain langage ivri, oui, mais non, c'était pas la même chose. Il avait un langage sarouar, oui, et les mots renvoient aux mots. Hein, sarouar, c'est la goutte pourrie, ça se dit aussi, hein, tipas roucha, oui, une goutte pourrie, c'est une expression dans la Gemara aussi. Oui, c'est toute la problématique de Bilam. Bilam ne comprend pas. Hein, quelle sainteté peut y avoir dans un homme? Il ne comprend pas la dimension de Kedusha. Donc, il ne peut pas avoir la langue du Kodesh. Ça ne commence pas. Il va parler une langue, mais ce n'est pas ça. Vous voyez? Alors maintenant, si vous voulez bien, on va passer au mouvement inverse. L'effondrement de la Shana Kodesh. Oh, rapidement, hein. C'est-à-dire l'histoire de la Tour de Babel. Mais je ne vais pas vous faire un cours sur la Tour de Babel. La Tour de Babel, vous savez très bien que vous disiez Safa Achat Udvarim Achadim. Ils parlaient tous, encore c'est une discussion, mais d'après l'opinion, ils parlaient tous le Shana Kodesh et ça s'est effondré. Mais ça s'est effondré pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Alors regardez, je vous propose, donc, on finira là-dessus si vous voulez. Regardez, c'est dans le chapitre 9 ou 10. 10, regardez. Chapitre 10 de Bereshit. Je n'ai pas fait des photocopies non plus. Regardez, chapitre B. Bon, c'est deux lignes chaque fois, je vais vous le traduire. Chapitre 10, verset 8. C'est l'histoire de Nemrod. En fait, pour le Midrash, c'est Nemrod, oui, qui a, si vous voulez, fait construire la tour de Babel. Et Nemrod, c'est le premier impérialiste, si on peut dire, oui. En tout cas, c'est le premier, d'après le Ramban, qui construit un empire. Avant, les gens vivaient comme ça, bon. Et là, c'est le premier pouvoir politique conquérant, oui, qui va conquérir, créer un empire. Voilà. Comme ça, il est perçu dans la Torah. Alors, c'est marqué ici, chapitre tête. Au début, voilà, les engendrements de Noir, etc. Les fils de Yafet. Puis, il y a les fils de Ham, oui. Les fils de Ham, hein, donc c'est lui qui a dévoiler la nudité de son père. On est toujours, oui, dans ce problème de dévoilement de la nudité. Ce sont des fils de Ham, oui, qui a dévoilé la nudité de leur père. Venir Ham, Kush ou Mitzrayim ou Put ou Kenora. Ils sont quatre. Le premier s'appelle Kush. Ensuite, il y a Mitzrayim, l'Égyptien, Put et Kenora, les fameux Cananéens. Ou venez Kush, alors c'est intéressant. Il avait beaucoup d'enfants, Sebo, Havila, Safta, Rama, Safteka, ou bien Rama, Chevaux d'Edan. Et après, on revient. Et Kush Yolad. C'est très surprenant. Déjà, pour un homme, on dit Holid. Un homme, il engendre avec un Hé. Vous voyez, c'est-à-dire, il fait engendrer par sa femme. Il est à l'origine d'un engendrement. Yolad, verset Hé. Chet, pardon. Chet. Zayin Chet. Le Kush Yolad. Oui, et Nemrod. On a l'impression que c'est lui-même qui l'a accouché. Yolad. Il l'a mis au monde. Vous voyez le féminin occulté. Oui. Kush Yolad et Nemrod. Et dans la suite, dans tout Ham, c'est tout le temps marqué Yolad, alors qu'on met sur Rolid. Oui. Kush Yolad et Nemrod. Il engendre ce fameux Nemrod. Houaya Gibor Tsaïd Ifne Hashem. Alors le grand chasseur, entre guillemets, on va voir comment Rashi traduit. Devant Hachem, Alken Yomar Knimrod Gibor Saïd Ifne Hachem. Donc on dit, voilà, c'est une expression comme Nemrod, grand chasseur d'ancien, c'est une expression stupide, si on veut. Rachidit Saïd, il chasse la tête des créatures, l'idée des créatures, ouais, avec sa bouche. C'est un idéologue, ou il a une rhétorique. Il sait bien parler, et il se fait du monde, et il s'est construit un empire par sa bouche. Donc, ça, Datan Chebriot, il poursuit l'esprit des créatures, oui, avec sa bouche. Veit à Nimrod dans la com, et les amène à se révolter, d'où son nom Nimrod, à se révolter contre Hachem. Il y en a un autre qui est un chasseur. Et Rachid dit la même chose là-bas, c'est Esav. Esav aussi, il est chasseur. Et Rachid dit, Sad Bepiv, ben il embobinait tout le monde avec son langage, et même dans cette sincère mesure, il traque. Donc, Sad Bepiv. Bon, encore une histoire de la bouche, oui. C'est Nimrod. Mais ce Nimrod-là, voilà, il sait parler, il sait asseoir son pouvoir, il a une soif de pouvoir, il commence par la bouche, continue avec les armes, mais d'abord, il faut un noyau, donc il est Sadbepiv, et il est légendaire pour cette capacité à se faire, à parler. Donc Gibor Sadbepiv, voilà, c'est le premier, je ne sais pas, rhéteur, je ne sais pas comment on dit, oui, rhétoricien, voilà, premier politique. Et il dit, et le début de son empire, et le Ramban, pardon, dit, c'est le premier qui crée une malchut, qui crée un empire, c'est Bavel. Vaerer, Vaakad, Vekalné, Bereshinar. Et on comprend que la tour de Bavel, c'est lui. C'est pas explicite, mais il établit son empire à Bavel, il fait de Bavel sa capitale, even tour, ouais, pour que tout tourne, si on peut dire, autour de Bavel. Il va être au centre du monde. Et que tout le monde tourne autour de lui. Ça, on va voir dans la tour de Bavel. C'est intéressant, la Torah ne dit pas explicitement, mais dit, voilà, il y a un projet impérial et un projet qui va vouloir centraliser la personne de Nimrod. Donc, il lui faut une capitale. Donc, il lui faut une ville. Il lui faut une tour. Voilà, il lui faut quelque chose qui centralise. Oumina Aresaï Yatsa Ashur, il y a deux lectures. Une lecture dit lui-même, Nimrod, il a conquis Ashur, Vaïven et Nidvé, Vedre Chovot, Ir, Vedre Kolar. Bon, il a encore rajouté, il a agrandi son empire, Vedre Sen, Ben Nidvé, Ben Kolar, I, O Ir, Aldola, etc. Ok. Ouais, après, c'est marqué au Mitzraïm Yolad. Mais on a l'impression que c'est Kouch qui est le premier de, à faire ce Yolad. Ouais. Après Mitzraïm aussi, ouais. Yolad et Ludim, etc. Voilà. Donc, l'engendrement de Nimrod. On a quelqu'un qui veut le pouvoir. Il est Gibor Saïd, ouais, et il établit une malroute sur Bavel, etc. Ça fait des petits, ça va sur Ashur. Et après, il y a l'histoire de Bavel proprement dite. Alors regardez, on va voir rapidement, sous un certain angle évidemment, c'est dans Yudalef, c'est marqué Vaï Kolares, hein, vous connaissez par cœur, Yudalef, chapitre 11, un peu plus loin. Bon, on connaît, hein. Toute la terre n'était qu'une seule langue et un seul projet, c'est ça qui est compliqué, un seul projet, mais lequel? Udvari Machadim. Vaï Benossam Mikedem, donc quand ils sont déplacés de l'Est, alors c'est bon, Nossam Mikedem, aussi Kedem, l'Est, mais c'est Kodem, c'est l'origine. Ils se sont éloignés d'Hachem, vous voyez? On peut aussi comprendre comme ça. Donc il s'éloigne d'Hachem, il s'éloigne de la transcendance, ou littéralement, il part de l'Est. Veim Seubika, il se trouve une vallée, Beret Shinar, c'est le même endroit hein, que Nimrod, Shinar, Veishvusham, il s'installe là-bas, Veyomru Ishel Reu, Hovo Nivne Lonu Levenim, on va fabriquer des briques, Venisrefo les Srefa, on va les brûler, Vateilaem Alvena le Oven, et la brique, c'est une invention technique si vous voulez, la brique remplacera la pierre. Parce que dans Bavel, il n'y a pas de pierre, c'est une grande vallée. Donc ils inventent la brique. Va Chémor et la glaise, l'argile, servira de chomer, de crépi. Ok, on trouve des inventions pour construire. Va Yomru, Hovo, Nivnelo. Nous, on connaît, voilà, on va se construire une ville et une tour. Pourquoi une tour? Oui. Va Rosho Bachamay. Avec la tête, une très grande tour. Rosho Bachamay, c'est une image, évidemment. La tête dans le ciel, voilà. Donc ils veulent une tour. Maintenant, c'est la Nouchel, c'est là que ça cloche. Ils veulent se faire un nom. Et un nom, Pennafouts Alpenecolares. De peur qu'on ne soit réparti à la surface de la terre et qu'on ait de pouvoir sur rien. L'union fait la force. Si on est tous ensemble, on acquérera une force, une puissance. On ne veut pas être réparti. Et c'est ce qu'Hachem ne veut pas. Le Rajbam, oui, et le Chizkuni, disent frontalement, ils s'en prennent à la bracha d'Hachem qui dit Oumid ou Etaret, remplissez la terre. Vous devez remplir la terre. Oui. Et ils ne veulent pas. Peine la faute. Il dit non. Si on est chacun ici à droite, à gauche, on n'a de prise sur rien. Oui. Il faut être ensemble. Et construire un. Il faut être centripète, si on peut dire. Voilà, on va centrer tout sur Bavel. Évidemment, derrière, il y a Némrod qui compte passer à la caisse, si je peux dire après. Hein, il va être au-dessus de la tour. Il va être au-dessus de tout ça. Il y a quelqu'un qui veut centraliser tout ça avec une argumentation. Voilà, l'union fait la force. Mais, ok. Vayered Hachem Lirot et Taïr. Bon, on connaît la suite de l'histoire. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, hein, regardez juste la suite, c'est marqué, bon, le jugement d'Hachem, etc., verset Chet, un peu plus loin, verset Zayin, pardon, les deux, verset Zayin et Chet. Hovo Nerdo, venez et descendons. Il s'adresse à son Bédine, à ses anges. Bon, il dit descendons. Venovlo Sham Sefasam. On va mélanger leurs langues. On va les détruire. Oui. Bon, je vais les obliger à se séparer. Ashalo Ishmo Ish Fatreyu. Ils vont plus se comprendre. Ils vont plus pouvoir rester ensemble. Cette union, ça ne plaît pas. Voyez, au fait, Hachem Osom, et donc on comprend le but de la manœuvre, Hachem les a éparpillés, Misham, de là-bas, Alpenekolares, sur toute la terre. Mais Redlou Livnataïr. Et cette histoire de ville a été finie. Bon, à un moment, il s'est produit comme ça. Pareil, ils ont cessé. On voit bien l'empire de Némrod continue encore longtemps. Oui. Mais disons, quelque chose s'est produit qui désagrège cette centralité. Alken Koroshomo Bavel, c'est pour ça que la ville s'est appelée Bavel, Kisham Bola Lachem, quelque chose s'était désagrégé dans leur langue, Sefat Kolares, ou Misham, on répète, Efitsam Hachem, Alpeni Kolares. Alors là, il me semble qu'il y a une notion intéressante. Némrod, oui, veut un empire, ce que dit le texte, Réchit Nartou. Il veut un empire, oui, il veut regrouper tout le monde, toutes les langues, tout le monde autour de Bavel. D'après un midrash, ils avaient mis autour de Bavel carrément des barbelés, enfin pas des barbelés, mais une clôture, oui, et on ne peut pas en sortir. C'est une lecture, il y a d'autres lectures. Mais il y a cette idée d'un monde fermé, où tout le monde est regroupé, et qui donne du pouvoir, donc crée un pouvoir central, centralisé, fort. Oui. Mais ça va s'effondrer, la langue, le Lashon HaKodesh ne tient pas. Lashon HaKodesh n'est pas fait pour ça. Hachem, ce que lui, il veut, c'est ça que je comprends, c'est une dispersion. Il veut une dispersion, effectivement. Milou et Arez, remplissez la terre, comme si Hachem voulait, on va dire, une multitude d'expériences, vous voyez. Les gens remplissent la terre. Donc, tu es au Japon, tu es au Guatemala, tu es à droite, à gauche, oui. Il y a des mondes, il y a une richesse, il y a 70 langues, oui. C'est autre chose. Et surtout, il y a une possibilité dans la Shana Kodesh. Il y a une possibilité d'une langue de la sainteté. Il y a une possibilité de penser, au fond, une transcendance, un Kodesh. Alors que là, on a le monde de Némrod, c'est l'envers. La Shana Kodesh s'effondre. Il ne supporte pas, hein, je vais tenter de dire, la tour va écraser la Shana Kodesh. Le poids de la tour, c'est une tour sociale aussi, oui. C'est une tour politique, oui. Ce poids humain écrase, on dit qu'elle-même s'est enfoncée dans le sol, et écrase la langue. On a une langue pour faire des briques, pour brûler des briques, oui, pour faire du mortier. Oui, on a une langue où tout devient une langue de construction, une langue économique, si vous voulez. Et là-dedans, on ne réfléchit plus. On a un genre d'univers totalitaire. Le mot « col » apparaît. Oui, à un moment... Ils ont une seule langue, le Koulam, tous. Oui. Et après, il dit Vézir, Hilom, la Sot, Atoloi, Batser, même, Kol, Hachaïzoumou. Il y a deux fois le mot Kol. Il y a Kol, c'est tout. Oui. Il y a un côté totalitaire. Oui. On veut tout rassembler, et on veut tout centraliser, tout maîtriser. Oui. Et ça, c'est incompatible, oui, si vous voulez, avec la Shana Kodesh. La langue se brise en 1000 morceaux, ou en 70. Oui. La langue se brise, la langue qui permettait de se comprendre, oui,
tous,
oui, cette langue s'effondre et les gens ne parlent plus la même langue. Oui. Et c'est une volonté d'Hachem. Il faut que les gens ne parlent pas la même langue, au moins pour rétablir un espace, oui, où on puisse penser la sainteté. Oui. Il y a un jeu comme ça. Et je pense que c'est ça. Si vous voulez, si on devait opposer l'universel d'Abraham, qui est universel, qui se dit, oui, au féminin, une espèce d'ouverture, d'expansion, oui, cet universel s'oppose à celui de Némrod et ses petits copains, comme Essav. Essav est un héritier de Némrod. Le Midrash est dit à sa manière. Oui. Voilà. Donc là, hein, le Yolad, on a un impérialisme que au masculin. Il n'y a pas de féminin. On regroupe tout, on centralise tout, on ferme, tout est bouclé, oui, et on ne peut plus parler. Ouais, c'est un petit peu comme ça que je voudrais opposer, oui. Le Brit ouvrant une autre parole, un autre monde, oui, un monde ouvert, où les gens sont éparpillés, donc ne sont pas dans une problématique de pouvoir, parce qu'effectivement, c'est l'union qui fait la force, oui. Mais voilà, mais quand on se rassemble, il y a un danger. Qu'est-ce qui nous rassemble? Construire la tour ou avoir une relation avec Hachem. Le Midrash, vous savez très bien, il dit en haut de la tour, il y avait une épée dressée contre le ciel. Oui, c'est l'image, évidemment. C'est-à-dire que la tour se construisait contre le ciel. On parle plus de la même langue, ouais. Un petit peu comme ça, oui. C'est une tour, oui, une volonté de pouvoir, sans le ciel, sans transcendance, sans devoir penser en haut. Ça, tu ne penses pas. Au contraire, il faisait la guerre à ça. Oui, ne nous embêtez pas avec ça. Il dit très bien. Et ta langue s'effondre. Ça se dit dans le Naaseh Lanu Shem. Faisons-nous un nom. Le nom, ça veut dire un pouvoir, une puissance, un nom, une gloire. Oui. Alors, moi, a dit Shem, ça renvoie à Shem Elohim Acharim, le nom des idoles. Le nom, c'est en soi une idolâtrie. Une forme d'idolâtrie. Ça veut dire, c'est, on idolâtre son propre pouvoir, si vous voulez. Son propre pouvoir, oui. C'est une forme d'idolâtrie du pouvoir, du politique, du pouvoir des hommes, du pouvoir de la civilisation, oui, qui n'est plus en dette vis-à-vis du ciel. Et là, hein, il y a un effondrement qui s'opère. Comme ça, je comprends l'effondrement de la tour de Babel. Il y a un poids, il y a une construction sociale. On a construit, et tout ça écrase le langage, au niveau de l'image. C'est trop lourd. Oui. L'espace humain est trop dense. Il est écrasé. Oui. Et donc, il n'y a plus de place pour réfléchir. Ou alors, faut justement s'isoler, s'exiler, se mettre dans un terrier, ne pas... voilà, c'est fuir, oui, fuir ça. Et fils, Hachem répartit, oui. C'est un petit peu le même problème avec le peuple juif, oui. Quand ils ont voulu avoir un pouvoir comme les autres nations, Hachem les a exilés. Ça vaut mieux. Si c'est comme ça, ça vaut mieux. Il y a un danger. L'exil, parfois, répare la tentation du pouvoir. Le Brit, oui, au féminin, s'oppose à l'impérialisme, entre guillemets, de Némrod et consorts. Oui. C'est une autre vision du monde où il y a 70 langues, peut-être un peu comme dans le rêve de Yosef, qui tournent autour de la Chambre de Kodesh. Il y a 70 langues, il y a 70 manières de dire, oui, et qui ont un certain échange avec la Chambre de Kodesh, qui reste, oui, le centre de gravité, on va dire. Un peu comme ça. Un autre Midrash dit qu'ils parlaient tous les 70 langues, mais c'est un peu plus difficile à comprendre. Et donc tout le monde comprenait la langue de tout le monde, et après ils ne se sont plus compris. Chacun ne comprenait que sa langue. Mais c'est ça, le pouvoir, oui, amène à ne comprendre que sa propre langue, son propre pouvoir. Comment tu vas, qu'est-ce que tu vas construire avec l'autre, oui. Un moment ou un autre, oui, voilà, ça va se fissurer. Mais dans le. La lecture de la Chambre de Kodesh est la plus simple. Il y avait une question ?
Je pense qu'on va passer à la session des questions.
Oui, allez-y.
Vous avez été à une conclusion sur le...
Non, alors voilà, c'est un petit peu ça. Je voulais opposer, si vous voulez, l'universel d'Abraham à Avamon Goïm. Ça s'oppose à Némrod. Avraham qui, justement, a évité la tour de Babel. Il n'a pas à donner dans ça, il est allé au loin, voilà. Il y a Némrod, si vous voulez, par la tour de Babel, c'est une problématique en soi, mais c'est le problème de l'effondrement de la langue dans une société de pouvoir et dans une société voilà, qui a une technologie au pouvoir au service du pouvoir, faire des briques, on va construire une ville, des tours et tout ça. Voilà. et dans lequel, vous savez très bien, on dit l'individu ne comptait pas. Hein. Quand on perdait une brique, c'était une catastrophe, mais quand on perdait un être humain qui tombait de la tour, ça ne dérangeait personne. On le remplaçait. Bon, ce genre de choses. Oui. Et donc, il n'y a plus de place pour l'homme. C'est totalitaire. Ça, on peut le voir par ailleurs. Les termes de les dimensions totalitaires, le col apparaît, il apparaît à Sdom, il apparaît ici à Babel. Oui, tout. Oui. Toutes les personnes, tous, oui, tout le monde. À Sdom, ils viennent tous frapper à la porte, du plus jeune au plus vieux, minaketse, de toutes les limites de la vie, tout. Oui, il y a un côté comme ça. Et là, dans Abraham, je comprends que le Brit déchire ce côté, on va dire totalitaire, puisqu'on connaît un peu cette langue, oui, déchire ce côté totalitaire, ventile, ouvre, oui, fait apparaître chaque peuple, oui, dans une logique, oui, qui est féconde, oui, qui permet, c'est peut-être le côté de la matricialité, oui, qui permet à l'ensemble de l'être humain d'engendrer quelque chose dans la relation avec l'autre. Un peu comme ça. Sinon, on bascule dans un... Voilà, ça, comme ça. Ça. Non. Alors, si il y a des questions...
Merci beaucoup pour l'exposé très dense.